Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir au salon de lecture, donc pour la présentation de ce numéro de la revue Terrain, qui s'appelle L'emprise des sons. Et donc c'est le numéro 68 qui est sorti à l'automne 2017, donc tout récemment. Et donc nous avons avec nous les rédacteurs en chef, Vanessa Manseron, anthropologue, que je vous présente ici pour ceux qui ne la connaissent pas, et Emmanuel Devienne à ses côtés. Anthropologue également à l'Université Paris-Nanterre. Ensuite, il y a avec nous Katel Morand, qui est ethnomusicologue à l'Université Paris-Nanterre. Et j'ai dit une erreur, non? Non, c'est bon. Juliette Volclair, qui est chercheuse indépendante, coordinatrice de rédaction à la revue Synthone. Synthone, c'est ça. Et Victor Stoichita, qui est ethnomusicologue au CNRS CREM. Voilà, merci à vous tous. Et présentez-nous donc ce numéro et faites-nous entendre des sons.
Merci beaucoup. Merci de l'invitation et cette occasion qui nous est donnée de présenter la revue. Je vais en dire juste trois mots très rapides. C'est une revue qui publie deux dossiers thématiques par an, qui essaye de croiser différents, multiplier différents formats autour d'un unique thème pour montrer que l'anthropologie a quelque chose à dire sur des thèmes qui semblent quelquefois un peu évidents, par la diversité culturelle et une approche souvent historique aussi. Et qui est aussi présente en ligne. Vous avez des rubriques en ligne sur le site internet de la revue et qui a aussi un blog qui essaye de s'adresser à un public encore plus large. Donc n'hésitez pas, tous les contenus ne sont pas sur le papier. Il y a des contenus additionnels sur internet. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Victor Stoichita, qui est donc ethnomusicologue, comme on l'a dit, et qui a coordonné scientifiquement ce numéro consacré au pouvoir des sons. Et je crois que justement, pour illustrer ce pouvoir des sons, on va commencer par des sons extrêmement powerful beats, des sons binauraux qui sont censés nous mettre dans un état particulier.
Commencé hein, depuis tout à l'heure, vous entendez ça. Alors au début, il y avait un peu de musique, maintenant on entend juste le battement lui-même. Donc c'est un battement binaural trouvé sur YouTube sous le titre Extremely Powerful Genius Awakening Binaural Beats. Et j'ai pensé que c'était bien pour commencer, pour nous mettre en condition. C'était bien de commencer, mais non, il va falloir l'arrêter aussi.
C'est beaucoup trop puissant pour nous,
ça
je
doit
crois.
être trop puissant. Donc, ce battement est modulé à 12 Hz. Donc, 12 Hz, c'est censé favoriser les ondes alpha du cerveau, ondes alpha qui sont associées à un état de conscience apaisé. Alors, j'avais hésité parce qu'on aurait pu prendre au-dessus, dans la gamme 15-20 Hz, on aurait activé plutôt les ondes bêta du cerveau, qui apparaissent normalement en période de concentration intense, ce qui aurait pu être bien aussi pour commencer le salon. Mais ces ondes sont aussi associées à l'anxiété parfois. Donc, bon, en dessous, par contre, c'était hors de question. En dessous de 8 Hz, on aurait trouvé d'abord les ondes θ, puis les ondes delta. Les ondes θ et delta qui caractérisent respectivement le sommeil léger et lourd. Donc ça, c'était bien sûr pas du tout approprié. Ces rythmes cérébraux sont connus et étudiés depuis le début du XXe siècle. C'est en gros des choses qu'on voit sur un électroencéphalogramme, c'est des grandes masses de neurones qui s'activent régulièrement de manière périodique. Donc il n'y a pas vraiment de nouveauté là-dedans. Par contre, l'idée qu'on peut les manipuler par le son est plus nouvelle. Vous n'avez peut-être pas senti en fait l'état de conscience apaisée qui correspond aux ondes alpha. Et c'est peut-être parce que le mode d'écoute ne convient pas. Là, on les a écoutés en stéréo dans la salle. Mais normalement, un son binaural s'écoute avec un casque. Et la théorie est que en fait, ce son apparaît du fait du croisement de deux sons purs qui sont à des fréquences légèrement différentes. Et cette différence de fréquence crée un battement. Là, comme on l'a écouté, le battement se produit dans l'air ambiant, c'est-à-dire que le son qui arrive de chacune des enceintes se mélange dans l'air et on entend le battement. Mais normalement, si on l'écoute au casque, d'après les promoteurs de cette technique, si on l'écoute au casque, eh bien, où se produit le battement? Logiquement, géographiquement, c'est dans notre cerveau, c'est au milieu, c'est dans la tête, entre l'onde qui arrive de gauche et l'onde qui arrive de droite, se produit ce battement. Donnant donc du coup, ouvrant la voie à l'hypothèse que eh bien, cet entraînement par le son pourrait entraîner les rythmes cérébraux. Alors, on peut avoir tous les doutes qu'on veut sur cette pratique. Toujours est-il que des productions binaurales sont maintenant disponibles en abondance sur YouTube. Il y a des logiciels payants et gratuits qui permettent de les générer soi-même. Il y a même des compagnies qui vendent des enregistrements binauraux à l'efficacité scientifiquement prouvée. Et j'ai mis ces sons en introduction, mais ce n'est qu'un exemple parmi une multitude de pratiques qui visent à modifier des processus biologiques par l'écoute de sons judicieusement organisés. Ces pratiques qui visent à modifier des processus biologiques par l'écoute de sons organisés, c'est le centre de ce numéro 68 de la revue Terrain. L'idée était, donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est en croisant différents terrains et différentes époques, on a essayé de montrer que certaines hypothèses de faire ressortir que certaines hypothèses sont remarquablement stables dans le temps et dans l'espace. Par exemple, celle d'un entraînement des rythmes biologiques par résonance ou par sympathie avec des rythmes sonores. Les sons binauraux, là qu'on a entendu, cette idée des sons binauraux, en fait, c'est l'idée qu'une vibration extérieure va parvenir à entraîner un rythme biologique. On en trouve une variante avec que vous avez peut-être croisé aussi, notamment si vous êtes intéressé à la musique techno, vous avez peut-être croisé l'idée que les battements de la musique techno agissent sur le rythme cardiaque. Et cette idée avait l'objet d'expériences scientifiques qui ne sont pas extrêmement concluantes, mais qui existent et qui est extrêmement populaire parmi les amateurs de cette musique. L'idée de base que la musique, l'idée que la musique entraîne des rythmes intérieurs est une idée, c'est aussi l'idée de base des effets de la musique à l'époque de Platon. Platon lui-même reprend d'autres théories qui existaient autour de lui, qui expliquaient qu'en gros l'âme est un principe interne en mouvement et que le mouvement de l'âme peut être entraîné par des mouvements extérieurs. C'est ainsi qu'on soigne les possédés. Ou les aliénés qui ont une âme désordonnée, on leur impose un mouvement venant de l'extérieur. Et c'est aussi comme ça qu'on endort simplement les jeunes enfants en les berçant par un mouvement physique et en les berçant par un mouvement sonore qui impose à leur âme désordonnée et agitée un mouvement rassurant. Cette idée, donc toujours d'un entraînement par sympathie, est aussi centrale dans les théories néoplatoniciennes de l'harmonia mundi, l'idée qu'il y a une correspondance entre différents ordres de réalité et que les rythmes et les harmonies, les rapports entre le macrocosme et le microcosme sont de nature musicale, musique ayant à l'époque un sens plus large que la musique simplement audible. Cette idée, on la trouve dans le numéro, dans l'article de Penelope Gook. Penelope Gook qui ne s'intéresse pas ici spécialement à cette période-là, donc aux théories néoplatoniciennes au Moyen-Âge et à la Renaissance, mais à la période juste après, à la nouvelle physique des Lumières et à la manière dont cette nouvelle physique des Lumières, la physique mécaniste, perpétue certaines idées de connexion vibratoire qui préexistaient auparavant. Par exemple, dans une première phase de ses recherches, Newton pense qu'il existe un éther entre toutes choses et que ce sont les vibrations de cet éther qui sont perçues comme une lumière par les yeux et comme son par les oreilles. D'ailleurs, sa décomposition, son cercle de décomposition spectrale de la lumière blanche en différentes couleurs, il est à la base calqué, vous voyez, sur la décomposition de l'octave en sept sons. D'abord, il y a sept couleurs. Ensuite, ça, c'est le diagramme de l'édition originale. Il y a les lettres tout autour correspondent aux lettres de l'échelle en anglais. Donc, C pour Do, D pour Ré, etc. Et vous voyez que les intervalles en fait, entre Si et Do, entre B et C, sont plus petits. Celui entre B et C et celui entre E et F sont plus petits que les autres, correspondant en fait aux demi-tons d'une échelle dorienne. Donc vous avez la même différence entre les tons et les demi-tons. Donc il y a d'abord une pensée calquée, où le musical sert de modèle pour penser d'autres choses. C'est ce que montre Penelope Gook dans cet article. Y compris des choses à la même époque, à l'époque de Newton, Robert Hooke, expliquer aussi que la gravitation, l'attraction entre des corps stellaires était aussi un effet des vibrations de l'éther. Et donc, en fait, ce paradigme vibratoire, à l'époque, explique l'ensemble, enfin une grande partie, répond en grande partie à la question comment est-ce qu'un corps peut agir à distance sur un autre. Eh bien, donc ces différentes théories qu'explore Penelope Gook, différentes théories prennent appui sur la manière dont un son peut entraîner par résonance la vibration d'un autre corps pour répondre à une gamme de questions beaucoup plus large, donc y compris à la question de la gravité. On peut aussi changer radicalement d'univers culturel et retrouver quasiment la même idée, par exemple, dans la culture tibétaine, à travers le portfolio d'Hildegard Diemberger et Charles Ramble. Là, il y a aussi donc des vibrations, audibles ou non, qui relient différents ordres de réalité. C'est ce qui permet à des... Pardon, ça ne devait pas être celle-là, mais celle-ci, voilà. Là, vous voyez le yogi Milarepa, une des représentations du yogi Milarepa, qui porte la main à son oreille, car l'un des attributs de ce yogi est de pouvoir d'entendre l'harmonie des choses autour de lui, les vibrations spirituelles de tous les êtres, de pouvoir communiquer avec les animaux, un peu comme Saint-François d'Assise. Et c'est aussi une propriété qu'on peut développer par la méditation, ou du fait de certains événements de la vie. C'est ce qui permet donc aux yogis et à certains moines de communiquer avec d'autres êtres avec lesquels la communication n'est normalement pas possible, et aussi d'entendre par exemple les mélodies cachées dans des chutes d'eau et de les retranscrire, de les retraduire en musique audible pour les humains. Mais aussi, il y a des applications au Tibet beaucoup plus populaires de ce principe de connexion vibratoire. Par exemple, si il y a en dessous de chez vous, en dessous de votre maison, une femme vampire qui vous ennuie. Ça peut arriver, les femmes vampires vivent sous terre. Alors comment est-ce que vous faites? D'abord, vous faites appel à un prêtre, bien sûr, ce n'est pas vous qui faites ça. Vous faites appel à un prêtre, en l'occurrence un prêtre bonne, de la religion bonne. Et il va vous expliquer que ce qui attire, ce que les femmes vampires aiment beaucoup, c'est le bruit du tonnerre. Pour elles, c'est un bruit de fertilité, de printemps, extrêmement positif. Et donc, en jouant de ce grand tambour, il va simuler le bruit du tonnerre pour attirer la femme vampire. En même temps, il va lui chanter une petite chanson. Attirer la femme vampire. Et une fois qu'elle arrive, eh bien, elle va être capturée dans l'espèce de trépied qui est devant. Donc là encore, mais de façon beaucoup plus... là, il y a beaucoup moins d'idées, si vous voulez, mystiques de communication transcendantale. C'est juste pour parler aux êtres qui sont en dessous et pour les attirer, on leur fait croire, on simule le bruit du tonnerre avec un tambour. Et eh bien, peut-être que ça marche. Au-delà de la connexion vibratoire stricto sensu, il y a une autre idée qu'on retrouve dans plusieurs endroits et à plusieurs époques. C'est celle d'une écoute mystique qui donnerait accès à d'autres ordres de réalité. Et on la retrouve dans le numéro, par exemple, l'article de Jean Düring. C'est l'une des grandes questions de l'islam que le rôle de l'audition. D'une part, l'audition du Coran joue un rôle essentiel dans la force de conviction du texte sacré. C'est donc ce qu'explique Jean Düring. L'audition joue un rôle essentiel dans la force de conviction du texte sacré, qui doit être récité dans sa langue d'origine, même par des gens qui ne la parlent pas, et avec une vocalité plus ou moins codifiée. C'est-à-dire qu'il y a différents styles de récitation du Coran, différentes écoles. Donc une grande attention portée à la forme sonore du texte sacré. D'autre part, un ensemble d'autres pratiques d'écoute ont un statut très ambigu, notamment celles qui sont dans les courants de mystiques, gnostiques, soufis, appelés soufis, avec un terme un peu générique, et aussi dans tout un éventail de pratiques populaires plus ou moins syncrétiques. Jean Düring prend l'exemple du rite de Gwati Damale au Baloutchistan. C'est un rite de guérison par la possession. Donc, il y a des esprits qui s'incarnent dans des êtres humains et ces esprits peuvent être soit des djinns, donc des djinns qui ont un statut, qui sont mentionnés dans le Coran donc qui se sont convertis à l'islam, soit des guati. Des guati sont des vents, littéralement des vents venus d'Afrique et qui, eux, ne sont pas musulmans. Mais l'ensemble du rituel est en principe un rituel pieux. On y joue une musique qui est par principe un hommage à des saints musulmans, à des calendars. Et le rituel est mené par un khalif. Jean Düring propose dans l'article en ligne, donc ça c'est un article qui est disponible dans la version en ligne de la revue, propose une analyse d'un document rituel inédit et très intéressant. C'est une analyse interactive. Je vous en passe juste un petit extrait. L'image n'est pas très bonne parce que c'est filmé avec des moyens artisanaux, mais c'est donc un rituel de guérison Guati Damali. En fait, on est à un moment, je vais juste arrêter un petit peu, on est à un moment, donc là, on est en fait vers la fin de la séance, je choisis un moment vers la fin de la séance, le jeune garçon qui est là, qui a la main devant ses yeux, il était en transe auparavant, là, il est en train d'en sortir, il est entouré d'un châle qui, normalement, marque la présence d'un esprit dans son corps. À un moment, il se jette en arrière, donc là, c'est que l'esprit l'a quitté. Celui qui est juste à côté de lui attend pour que ce soit son tour de rentrer en transe, et après, soit il est possédé par le même esprit, soit par un autre esprit, on ne comprend pas très bien, mais il rentre tout de suite après en transe. On lui propose le châle, il le refuse, juste pour vous donner une idée du type d'interaction et du type de musique qui l'accompagne. Donc cette vidéo, vous pouvez la retrouver en entier dans un guide d'écoute interactive, donc où Jean Durek explique séquence par séquence qu'est-ce qui se passe, pourquoi les différents protagonistes font ce qu'ils font. Et dans son article, il revient sur les débats que suscite cette pratique. Est-elle conforme à l'islam? Les djinns et les vents existent-ils? On voit que la question est assez ambiguë, même pour les musiciens qui jouent dans ces événements, ils n'en sont pas tout à fait sûrs. Peut-être que tout cela n'est qu'un pouvoir de suggestion du khalif et la force émotionnelle de la musique pure qui agit et qui met les gens dans cet état-là. Ça fait combien de temps que... Je prends juste un autre exemple alors de l'idée d'écoute mystique. En Europe, on le trouve dans un article par James Kenaway dans le volume. L'écoute mystique est une possibilité, y compris dans notre société. James Kenaway s'intéresse aux hallucinations musicales et au traitement des hallucinations musicales au XIXe siècle, plus précisément. Le XIXe siècle, c'est l'époque où les hallucinations musicales commencent à rentrer dans la littérature psychiatrique. Une hallucination musicale, c'est l'impression d'entendre une musique qui n'est jouée par personne. C'est le degré de réalité juste au-dessus d'une expérience beaucoup plus commune qui est d'avoir un air musical qui vous tourne dans la tête sans que vous le vouliez vraiment. Donc, vous ne pouvez pas vous débarrasser. Donc, quand vous avez un air qui tourne dans la tête, il échappe à votre volonté, mais vous savez qu'il est dans votre tête et vous n'avez pas l'impression de l'entendre du dehors. L'hallucination musicale, c'est le degré juste au-dessus, vous avez vraiment l'impression de l'entendre du dehors. Et ces hallucinations intéressent donc les psychiatres au XIXe siècle, mais elles intéressent aussi les mystiques, notamment dans tout le courant du médiumnisme, et les artistes. Alors là, il y a une interaction entre, à trois, en fait, entre donc une interprétation psychiatrique, une interprétation spirituelle et une interprétation artistique dans le paradigme romantique qui fait de l'artiste un génie qui est un peu un médium et un peu un damné aussi, un peu affublé de maladies, un malade. Et James Kenaway montre comment donc les hallucinations musicales basculent entre un paradigme et un autre, entre le paradigme donc d'une écoute pathologique et celui d'une écoute mystique ou du génie artistique. Donc j'ai pris ces exemples pour montrer quelques lectures transversales possibles à partir des travaux rassemblés dans le volume. Chacun des travaux est bien sûr une étude de cas, sur un cas précis. Et les contributions peuvent aussi être lues d'une autre manière. Nombre d'entre elles éclairent aussi des questions tout à fait actuelles dans notre société. Par exemple, si vous dînez avec des amis un peu conservateurs qui vous expliquent que tout de même certaines musiques poussent plus que d'autres à la violence, hein, par exemple le heavy metal ou le rap, c'est une discussion que vous pourriez avoir, et bien vous pourrez leur répondre, après avoir lu l'article de Katel Moran, que les paysans Amara d'Éthiopie pensent un peu la même chose. Ils pensent aussi que certains chants peuvent rendre fous et pousser au meurtre. Mais la forme sonore et sémantique de ces chants ne ressemble pas du tout à ce que nous appellerions dans notre société une musique violente. Et il n'est même pas certain, d'ailleurs, explique Katel, que la musique des Amara ait vraiment les propriétés d'entraînement cognitif que ces derniers lui prêtent. Peut-être que dans une autre discussion, vous pourriez arriver sur l'impression que qu'il n'y a pas forcément une grande différence entre la musique d'un film qui essaye d'orienter votre perception d'une scène du film, et la musique d'un magasin qui essaye d'orienter votre perception d'un produit. Au fond, tout ça, c'est une manière où vous essayez de vous entraîner vers une certaine lecture des choses. Eh bien là, grâce à l'interview que nous accorde Juliette Folkler, vous verrez que l'industrie du divertissement et celle de la musique d'ambiance ou du marketing sonore ont bien une histoire liée. Et plus inquiétant peut-être, vous verrez aussi que toutes ces théories du contrôle des comportements humains par le son ont aussi des ramifications dans la recherche militaire sur les armes sonores, sur le lavage de cerveau et sur l'usage de la musique à des fins de torture. C'est pour mentionner deux autres liens possibles que l'on peut faire entre des contributions du numéro et des théories ou des questions que l'on peut se poser dans notre société. Avec ça, je pense que j'ai fait un petit aperçu. J'ai essayé de rentrer un petit peu dans certains des articles du numéro. Et il y a donc Katel et Juliette qui sont là avec nous pour...
Merci beaucoup, Victor, pour cette introduction qui effectivement balaye bien l'enjeu du numéro, qui était, on peut dire que c'est un numéro d'ethnomusicologie qui finalement montre que l'ethnomusicologie n'est pas une province isolée, mais au contraire qui cherche à éclairer à quel point, par la musique et le son, on peut fabriquer du social, ou en tout cas on peut comprendre une société par le sonore et par la musique. Un peu dans la manière dont Jell a requalifié l'anthropologie de l'art, en disant une anthropologie de l'art à proprement parler, c'est une anthropologie qui cherche à comprendre comment est-ce qu'on fait une société avec des objets d'art. Et là, c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'on réussit à dépasser une vision un peu isolée de ce qu'est l'ethnomusicologie, en montrant dans chacune des contributions qu'on ne peut pas isoler la musique complètement des relations sociales dans lesquelles elle est plongée, la musique ou les sons. Une autre des visées qu'on avait au moment où on a eu l'idée de ce numéro, c'était de prendre le contre-pied d'une vision un peu trop positive de la musique. On pense beaucoup à la musique pour ses effets positifs, on pense beaucoup à la musicothérapie. Du coup, c'est un numéro qui est résolument décevant de ce point de vue-là. Il insiste beaucoup plus sur les effets négatifs de la musique, à quel point la musique dans les sociétés humaines est investie de pouvoirs plutôt pathogènes, pathologiques. En tout cas, c'est une puissance, c'est quelque chose qui cherche et qui permet d'agir sur autrui. Et c'est en ça que c'est un instrument d'action sociale, au même titre qu'un objet d'art ou la parole, enfin, on peut multiplier les exemples. Mais celui-là a quand même des propriétés singulières. Et là, vous avez, on a réuni deux des contributions les plus sanglantes, on pourrait le dire, en fait, du numéro, celle qui vraiment cherche à affronter en face la grande question du pouvoir létal des sons et de la musique. Est-ce qu'on peut tuer avec du sonore ou du musical? Juliette Vauclair, on va commencer par vous. Vous avez écrit deux ouvrages, l'un en 2011 qui s'appelle Le son comme arme, les usages policiers et militaires du son, à la découverte, et le second plus récemment, Contrôle, comment s'invente l'art de la manipulation sonore, qui suit le parcours de quelqu'un de fascinant qui s'appelle Harold Burismayer, qui est né au début du XXe siècle et dont une des quêtes de l'existence a été de trouver les sons épouvantables, ce qui est finalement comment dire, un but dans la vie comme un autre. Et il y a presque réussi, je crois qu'on peut le dire.
Oui, enfin, il a réussi de manière indirecte, on va dire. En fait, il cherchait plus généralement au début, il voulait chercher à contrôler le son, et très rapidement, ça s'est transformé en contrôler les gens avec le son. Et donc, en fait, conjointement, il a travaillé aux deux choses, à des aspects techniques, à des travaux techniques sur le son qui, de fait, représentent une belle progression, quoi. Enfin, une belle invention par rapport au son qu'il y avait au théâtre au début du XXe siècle. Il a été vraiment un pionnier des effets sonores électroniques au théâtre. Et son travail a été très vite remarqué, justement, par ce glissement qu'il opérait entre le travail technique et l'effet sur le public. Son travail a été très vite remarqué par l'industrie de la musique d'ambiance, qui était une industrie naissante, bourgeonnante, et on voulait lui trouver des effets pragmatiques dans les usines pour augmenter la productivité ouvrière. Et très vite après aussi dans la musicothérapie pour réparer les hommes qui venaient du front. On cherchait tous les moyens en fait pour les soigner de manière plus efficace. Également, l'armée a remarqué ensuite son travail pour ses aspects plus obscurs. La femme de Burismayer dira que la guerre avait été l'occasion pour lui de pousser un petit peu plus loin les travaux qu'il avait engagés au théâtre. Donc là, effectivement, dans la quête de sons nuisibles, on va dire, mais en fait, Burismayer désamorce tout ça de manière assez amusante parce qu'il s'en amuse énormément. Il raconte ses rapports en fait sur ces recherches-là sont presque comiques en fait à lire parce qu'il y a eu énormément d'échecs, majoritairement des échecs. Pour moi en fait son véritable impact n'a pas été dans le façonnage de dispositifs précis, mais dans sa manière assez brouillonne, à la fois très idéaliste et assez fantasque. D'inventer en fait un cadre de pensée au son nuisible, au son qui pourrait tuer ou au son qui pourrait blesser.
D'accord, parce que l'entretien dans la revue Terrain s'appelle Armes sonores et musique d'ambiance, et on voit bien effectivement qu'il y a des connexions dans l'histoire des idées entre ces deux domaines du pouvoir des sons. Mais avant d'en revenir aux musiques d'ambiance et aux liens qu'il peut y avoir entre les deux, il y a un imaginaire très fort des sons qui tuent et que l'armée américaine a pris très au sérieux. Et il y a eu
Oui.
beaucoup de recherches là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Est-ce que
Le
ça...
son peut-il tuer?
Voilà, c'est ça.
Le son peut tuer en théorie. En pratique, ça n'est strictement pas utilisé parce que c'est pas du tout pratique. C'est-à-dire pour tuer quelqu'un au moyen du son, il faudrait le placer dans un caisson à ultrasons pendant 1 heure avec des ultrasons envoyés à une puissance considérable. Là, éventuellement, on arriverait à tuer la personne, mais sur le champ de bataille, c'est pas la situation qui se présente le plus fréquemment. Et puis bon, il y a des moyens beaucoup plus rapides de tuer quelqu'un aujourd'hui,
Moins cher.
voilà, et moins cher. Et puis au moyen d'infrasons aussi, c'est-à-dire des sons très graves. Les ultrasons sont des sons extrêmement aigus, tellement aigus qu'on les entend pas. Les infrasons sont des sons tellement graves qu'on ne les entend pas. Au moyen d'infrasons aussi, il est possible de tuer quelqu'un, mais encore une fois, c'est tellement peu pratique. Et puis on risque en fait incidemment de tuer aussi la personne qui est en train d'utiliser l'arme, parce que les infrasons se déplacent de manière circulaire. Donc c'est vraiment pas très pratique. Et d'ailleurs, c'est assez. Il y a des répercussions de cet imaginaire jusqu'à aujourd'hui. Vous avez sans doute tous et toutes entendu parler de cette fameuse arme acoustique à Cuba qui aurait des propriétés absolument extraordinaires. Et c'était un épisode au niveau médiatique qui était très intéressant à voir, quoi, observer, parce que en fait, on retrouve dans là-dedans tous les fantasmes en fait autour des armes acoustiques. Avec les propriétés du son qui agit de manière invisible, c'est absolument indétectable, il y a des effets qui sont considérables, y compris des atteintes au cerveau, etc. Bon, ce qui n'est pas impossible du tout dans l'absolu, mais encore une fois, ça pourrait se faire dans des conditions expérimentales, qui ne sont pas les conditions de la vie à Cuba. Et en fait, il y a très peu de... Y a, enfin, en fait, j'ai lu deux articles en tout qui prenaient le contre-pied du récit dominant, sur le fait que c'était nécessairement une arme acoustique qui induisait ces effets, parce que je pense qu'il y avait une sorte de... Ça reprenait en fait une trame que je lis depuis, on va dire, la moitié du XXe siècle, en fait, un discours sur les effets du son sur l'humain, mais qui est très largement fantasmé. Donc qu'il y ait une arme qui ait fait des choses à ses employés d'ambassade, c'est assez certain. Une arme ou un dispositif technique qui dysfonctionne d'une manière ou d'une autre, ou une bactérie ou je ne sais quoi,
mais c'était pas certain, c'était pas mais des sons binauraux.
Le son, c'est extrêmement peu probable.
Et oui, à ce propos, je me demandais aussi, parce que vous, dans l'entretien, vous retracez un peu l'histoire des usages militaires des sons. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, en l'occurrence pendant la guerre du Vietnam, où il y a eu quand même des tentatives très concrètes d'effets sonores sur l'ennemi, mais des usages qui n'étaient pas destinés à tuer, mais bien à épuiser ou alors à humilier.
Et harceler. Voilà.
Ou harceler.
Oui, c'est la recherche, c'est dérivé d'une des recherches d'Harold Burismeyer pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, en fait, l'utilisation principale du son pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été la découverte de l'heure sonore, enfin la recherche d'un effet des leurres sonores, c'est-à-dire ça faisait partie d'une tentative plus générale de produire une sorte d'illusion multimédia sur le front. Ça a été mené à 20 occasions, sur 20 batailles, par ce qu'on a plus tard nommé la Ghost Army, l'armée fantôme, qui était constituée de 1000 hommes, majoritairement des artistes et des comédiens, et qui avait pour rôle en fait de faire croire à la présence de certains corps d'armée alors qu'ils n'étaient pas encore là, il y avait différentes situations en fait, leurrer, appeler en fait les ennemis, les Allemands par des leurres sonores à tel endroit alors qu'en fait on allait attaquer par tel autre endroit, voilà, ça a de fait été utilisé. Les historiens disent que l'impact n'a jamais été négatif sur les batailles, mais qu'il est sans doute resté très, très mesuré, quoi, très relatif. Et donc, cette technique a été très vite oubliée par l'armée états-unienne, qui a clôturé en fait, la station expérimentale qui avait mené ces recherches, qui les avait développées. Mais on voit ressurgir au moment de la guerre du Vietnam un usage qui est vraiment héritier en fait de ces premières expérimentations et qui était la réalisation par une unité de l'armée, les opérations psychologiques, les psyops, de cassettes visant à harceler les Vietcong de nuit par une diffusion par hélicoptère. Alors la diffusion par hélicoptère, c'est encore Harold Burismeyer, parce que c'était le fait de diffuser du son par hélicoptère ou par avion, c'est loin d'être évident pour que le son reste audible au sol. Et donc je peux vous faire écouter un extrait de la cassette la plus connue, qui s'appelle, je vais juste la resituer précédemment, qui s'appelle The Wandering Soul, l'âme errante. Et c'est un vétéran qui l'a mis en ligne sur son blog. Et en fait, c'est une cassette qui avait été faite, qui s'appuyait en fait sur des recherches que les GIs avaient faites sur les croyances, donc, sur l'idée que les bouddhistes allaient être, enfin, étaient persuadés qu'il fallait qu'une âme, enfin qu'une âme que l'âme trouve la paix, il fallait que le corps qu'il avait abrité repose dans la terre de ses ancêtres. Et donc vous allez entendre dans ce mix qu'ils ont réalisé un Viet Cong mort et qui n'a pas été enterré sur la terre de ses ancêtres, et donc son âme est vouée à l'errance éternelle, et il parle depuis l'au-delà. Et donc les GX se sont vraiment amusés avec la réverbération, ils sont allés enregistrer plein d'effets spéciaux de type Halloween, ils sont allés à Bangkok enregistrer un tigre, ils ont calé un tigre au milieu de tout ça, ils ont pris une voix d'enfant qui dit « Papa, papa, où es-tu ?» encore une fois avec plein de réverbération. Il y a eu énormément de recherches comme ça sur voilà, je pense qu'ils se sont énormément amusés à fabriquer ces sons, donc ils diffusaient de nuit. Je reparlerai juste après et puis on n'a qu'à écouter un petit bout. Donc avec des chants funéraires bouddhistes qui étaient intégrés.
Et il y avait les pales de l'hélicoptère par-dessus, en plus, j'imagine. Ouais,
oui, oui, oui.
Ça dure longtemps.
Oui, on va peut-être, on peut peut-être couper. Vous avez une idée assez fiable. En fait, bon, les Viet Cong repéraient probablement assez facilement d'où venait le son et que c'était pas de l'au-delà, mais simplement de l'hélicoptère qui passait au même moment. Donc, c'est assez peu probable en fait qu'ils aient été très impressionnés. Après, il y a quand même cet effet de puissance acoustique en fait. Il y avait vraiment une bataille qui se menait à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, l'armée états-unienne affirmait une véritable puissance technologique à travers ce type d'usage. Donc première chose qui peut servir à démoraliser l'ennemi de fait. Et en fait surtout, ils diffusaient de nuit et à plein volume. Et d'après des témoignages qu'il y a eu, bon, c'est des témoignages qui restent un peu spécieux parce qu'ils ont transité par les vétérans eux-mêmes. Mais les Viet Cong disaient qu'ils l'entendaient, y compris dans les tunnels qu'ils avaient creusés, et donc que c'était vraiment très efficace en fait pour les empêcher de dormir. Et la privation de sommeil est une technique militaire, en revanche, qui est très très efficace. Donc le son a pu être utile de manière indirecte, on va dire.
On peut, je crois qu'il y a des exemples d'armes sonores. Et il y a peu, oui, d'armes sonores finalement. C'est ça qu'on découvre dans l'entretien, c'est qu'il y a un imaginaire très puissant et beaucoup de fantasmes sur l'efficacité des âmes sonores. Et puis en fait, il y en a
d'ailleurs
qu'une qui existe aujourd'hui.
Y compris avec les sons binauraux du début, qui font partie aussi de la légende des armes acoustiques, où il y aurait eu la Grande-Bretagne aurait utilisé en Irlande du Nord une squawk box, une boîte à cris, dans les années 70, utilisant des sons binauraux, mais comme dispositif de dispersion des manifestations. Mais son usage reste très douteux. Et effectivement, aujourd'hui, en fait, tous ces échecs, en fait, toutes ces expérimentations mi-grotesques, mi-cauchemardesques, ont abouti à un dispositif principal utilisé en manifestation aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays qui l'ont acheté, la Birmanie ou d'autres pays, pas la France. Donc c'est le Long Range Acoustic Device, le dispositif acoustique de longue portée, qui n'a pas d'effet psychologique, mais qui a un effet auditif extrêmement simple, c'est-à-dire qu'il est très désagréable à l'oreille et il peut réellement entraîner une surdité si jamais on reste dans la zone de diffusion, puisqu'il est émis jusqu'à, alors dans la revue, j'avais dit 153 décibels, en fait c'est 156 ou même 160, puisqu'il y a eu, je suis retournée récemment voir le site du fabricant et je vois qu'il continue à grimper dans l'amplitude. C'est plus fort qu'un avion au décollage. Il y a eu un procès aux États-Unis d'une professeure, Karen Piper, qui a perdu de fait l'audition en passant dans une manifestation à Pittsburgh. et ça a été reconnu comme tel. Elle a obtenu 72 000 dollars de dommages et intérêts très récemment pour ça. Et on peut l'écouter, donc peut-être baisser le son au préalable. Et vous allez voir, en fait, c'est une alarme.
On est en danger.
C'est une alarme très intense et très directionnelle. Donc ça, c'est l'usage principal qui en a été fait, le premier gros usage, donc à Pittsburgh, en 2009, dans la manifestation contre le G20. Mais sinon, il existe depuis 2004. Donc c'est, vous voyez les camions de police, et en fait, juste au-dessus, on voit très mal, l'image est de mauvaise qualité, mais il y a une sorte de carré, voilà. Vous voyez le carré, c'est un haut-parleur, en fait. Voilà, c'est ça. Et alors là, l'avantage, c'est que le policier derrière qui envoie l'alarme n'a même pas besoin de mettre des bouchons d'oreille, parce que là, pour le coup, c'est un son aigu, qui est dans les médiums, mais qui est aigu, et qui est extrêmement directionnel. Donc les policiers n'ont même pas besoin de se protéger, en fait. Mais bon, on voit que l'effet est immédiat, hein, c'est... Tout le monde s'en va et c'est pas un hasard. Et c'est le seul d'ailleurs pour répondre de manière, pour compléter ma réponse sur est-ce que le son peut tuer. Le son ne tue pas au niveau militaire ou policier parce que c'est pas pratique tout simplement. Mais il est utilisé de manière indirecte pour tuer. C'est-à-dire cette alarme-là par exemple a pu être utilisée pendant la dernière guerre d'Irak dans les rues des villes pour déloger les snipers. Et de fait, ils lâchaient leurs armes, ils se mettaient à courir ou à se boucher les oreilles tout simplement, et là, ils étaient abattus. Ce qui fait que un groupe de chercheurs de l'université de Bradford en Grande-Bretagne a dit que c'était un usage pré-létal. Ça accompagne l'armement classique, ce n'est pas létal en soi, mais avec dans le cadre d'un dispositif militaire plus large, ça peut servir à augmenter en fait le nombre de morts de l'autre côté.
Dans l'entretien, on voit bien que, comme je le disais tout à l'heure, entre musique d'ambiance et armes sonores, il y a un ancrage commun. C'est une croyance très mécaniste, la croyance dans la causalité très mécanique entre le son et un effet physiologique. Et donc, vous rattachez ça au comportementalisme, au behaviorisme dans les années 30, qui a été le paradigme dominant de toutes ces recherches. Mais est-ce que ce genre de recherche dans le domaine des musiques d'ambiance et des sons qui consistent à agir sur les foules a des ramifications, a finalement produit des effets jusqu'à aujourd'hui ?
En fait, ça continue à être la pensée dominante. On va dire le postulat, c'est même pas la pensée dominante, c'est une sorte de postulat qui est admis comme tel, qui n'est même plus questionné, toujours dans la musique d'ambiance aujourd'hui. Sur le marché de la musique d'ambiance, également dans le marché d'un certain design sonore commercial, puisqu'il y a du design sonore qui n'est pas de nature commerciale, mais il y a le développement d'un design sonore commercial ou sécuritaire ou utilitaire, mais qui vise un peu ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple très symptomatique, le son du pass Navigo que vous entendez là dans le métro. Il a été designé en fait par un des pionniers du design sonore français, Bernard Delage, avec le compositeur Christian Zanesi. Et ils disent en fait que, enfin, Delage dit dans une interview qu'il revendique en fait cette filiation comportementaliste, que pour lui, il m'avait dit dans un entretien, quand on n'a ni le temps de la réflexion ni celui de l'analyse, le couple stimulus-réponse est très est nécessaire. Et pour lui, le bip de validation d'un ticket rentre dans cette case-là. Et c'est assez frappant aussi, dans un autre entretien qu'il avait accordé à Leroy Merlin, je ne sais plus pourquoi, mais bon, il dit parce que je crois qu'il avait fait une partie du design sonore d'un de leurs magasins, il dit en fait que le son du pass Navigo, déjà, c'était prélevé, c'est une note de l'identité sonore plus générale de la RATP, donc c'est intéressant en fait, et qu'il a été étudié pour accélérer le temps de passage au valideur. Et de fait, la RATP essaye de tester des usages du son qui vont influer sur notre temps de parcours dans certains. Je ne sais pas si vous avez été à Opéra, par exemple, ou à Châtelet, dans des très longs couloirs. Ils ont mené des expérimentations en 2014 là-dessus, sur est-ce que la diffusion de certains sons permettait aux gens de trouver plus facilement leur chemin et d'aller plus vite dans la traversée du, des...
Mais ça marche ?
Je n'ai pas eu le résultat, mais ils ont arrêté l'expérimentation. Mais le Pass Navigo, en tout cas, ce qui est assez frappant, quand on se poste vraiment, par exemple, je m'étais postée à La Défense à une heure de grande affluence. Et ce qui est assez incroyable, c'est le côté très rythmé. En fait, il y a une sorte de synchronisation de tout le monde qui se fait. Il y a un côté un petit peu qui est malaisant, on va dire, quoi, à constater ça. Mais il y a une sorte de synchronisation qui se fait. Et puis la personne dont le pass est invalide, alors là, qui crée tout de suite une sorte de choc, parce qu'elle crée non seulement une fausse note, mais en plus une sorte de rupture de rythme. Et en plus, elle réessaye, donc elle a une nouvelle fausse note. Et bon, ça crée un désordre momentané. Et après, le rythme revient un peu d'ailleurs comme les articles qui sont passés à la caisse pour les caissières, hein, où je pense que le bip a un effet de... il a un rôle de validation, en fait, pour la caissière, pour qu'elle n'est pas à vérifier sur l'écran. Ça lui permet de valider beaucoup plus vite, de savoir que le passage en caisse a été validé, mais ça imprime aussi un rythme sur son action, quoi, sur son activité. Donc voilà, pour tirer des ramifications jusqu'aujourd'hui de la pensée comportementaliste, oui, elle est toujours au cœur, en fait, des usages, on va dire, les plus contemporains et les plus inédits, les plus nouveaux du son. Après, elle est vraiment née, et c'est assez frappant, en fait, quand Burris Meyer a commencé à s'appuyer là-dessus dans les années 30 pour faire des effets électroniques au théâtre. Je ne pense pas du tout, en fait, qu'il lisait vraiment la littérature comportementaliste de l'époque, mais c'était le bain ambiant, quoi. C'était le milieu scientifique, c'était l'univers scientifique et idéologique dans lequel baignait la société de l'époque, et donc voilà, ça imprégnait y compris les recherches sur le son au théâtre. Et ça s'est tellement ancré qu'aujourd'hui ça reste au cœur, en fait, des nouvelles recherches.
Bon, bah merci beaucoup. C'est un peu terrifiant de voir qu'en fait il existe des armes sonores et on s'en sert tous les jours ou on les subit. Mais ce qui est assez amusant en comparant vos deux contributions, c'est de voir qu'effectivement cette question-là, de savoir si le son ou la musique en elle-même, par elle-même, indépendamment de tout autre contexte, peut avoir un effet, c'est les Amaras d'Éthiopie. Cela pose également, et l'article de Catel Morand, dont tu vas nous parler maintenant, porte exactement sur cette question, sur savoir est-ce qu'il faut prendre au sérieux ces discours des gens qui disent que certaines chansons peuvent conduire au meurtre. Donc c'est une musique qui serait censée porteuse d'une puissance telle qu'on serait incapable de faire autrement que de les subir et d'agir comme la musique veut qu'on agisse d'une certaine manière. On est là dans les hauts plateaux éthiopiens. C'est une société où tout finit pas en chansons, tout finit par des meurtres, mais tout commence par des chansons, on peut le dire comme ça, puisque c'est une société avant d'État, donc on peut presque dire qu'elle est structurée autour de la vengeance. Je ne sais pas si c'est une bonne façon de le dire, c'est peut-être un peu trop panhistorique, mais en tout cas, il y a peu de familles qui échappent à ces cycles de vengeance et de meurtres, et il y a toujours des chansons au départ de ces cycles de vengeance. Peut-être qu'on peut commencer par écouter un extrait. Ou tu...
Parce que c'est pas mal qu'on ait une petite idée de ce que c'est avant de commencer à écouter, pour que vous ayez une idée de ce qu'il faut écouter, justement. Donc oui, effectivement, ce que tu dis à l'instant, c'est une société qui est très marquée par la violence, qui existe de façon assez lourde sur place. Ah, on m'entend pas ? Ok. Qui existe de façon assez lourde sur place dans la vie quotidienne des gens, parce qu'il y a effectivement dans ces petits villages, donc il faut s'imaginer, on est dans les hauts plateaux, hein, dans le nord de l'Éthiopie, et il n'y a presque aucune famille que j'ai rencontrée qui n'était pas à un degré ou un autre touchée par ça, que ce soit un membre de la famille, un père, un fils, etc., qui ait soit été tué, soit qui ait tué lui-même, quelqu'un d'autre. Alors, c'est assez complexe, donc structuré par la vengeance, peut-être qu'effectivement c'est un peu fort. C'est quand même assez... Ça fait très longtemps que ça marche comme ça. On le sait notamment parce que c'est une société qui était très marquée par le banditisme, en particulier la région où je travaille, où on avait beaucoup de bandits, des épisodes d'insurrection anti-gouvernementale, encore jusqu'à aujourd'hui, des guérillas, etc. Et où il y a un rapport très fort voilà, à la violence, au fusil, au fait de se revendiquer, de s'auto-glorifier comme un héros, de revendiquer ainsi sa capacité de régler les problèmes par la violence, etc. Et dans lequel les relations de réciprocité qui existent entre les gens impliquent que quand quelqu'un est tué, on doit venger sa mort. Et donc, du coup, on a comme ça des cycles de vengeance qui existent. Alors, c'est des choses assez complexes. Oui, les raisons pour lesquelles on tue pour des questions agraires, des questions de champs, on tue également pour des questions de vaches, on se vole beaucoup les vaches les uns les autres, et c'est essentiellement les deux raisons en tout cas qui sont considérées comme étant légitimes, et on reviendra sur cette question après. Donc voilà, des choses assez complexes, a priori on pourrait se dire voilà, c'est pas l'affaire des ethnomusicologues, quoi. Enfin, c'est un anthropologue pour arriver à travailler là-dessus. Mais que quand on travaille sur la musique, bon, bah, on ne va pas nécessairement travailler là-dessus. Et assez rapidement, petit à petit, quand j'ai commencé à travailler chez ces gens-là, à vivre avec eux, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas travailler sur la musique sans, quelque part, travailler sur la violence, ou en tout cas la prendre en considération, parce que la musique, le chant n'existe pas en dehors de la question de la violence, c'est-à-dire que dès qu'on chante, il y a toujours la possibilité que la violence se suit derrière, et inversement, c'est-à-dire que chaque fois qu'on parle de questions des homicides qui ont eu lieu, etc., on en revient toujours au chant, à qui a chanté quoi, et la raison pour laquelle quelqu'un a tué, c'est parce que tel autre ou lui-même, etc., avait chanté tel chant. Donc on se retrouve dans quelque chose où ils sont étroitement liés, avec cette idée que le chant, et en particulier un genre de poésie chantée qui est le plus représenté, le plus pratiqué, celui que, dans lequel les gens s'investissent le plus, que ce genre-là peut pousser à tuer, en fait. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Caralto. Voilà, je ne crois pas que je l'ai mis dans la vidéo, mais c'est quelque part. Non, il n'y est pas, je pense. Moi, c'est quelque part par là. Donc, du coup, pourquoi ? Alors, quand on demande aux gens pourquoi, les gens vont dire que ça pousse à tuer, non pas à parler directement, comme on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que les ondes sonores tueraient quelqu'un, mais parce que ça met la personne qui chante ou celui qui l'entend dans un état particulier. Un état qu'ils appellent l'ardeur, qui est une sorte d'échauffement interne, qui peut très vite virer vers la colère, le désir de vengeance, c'est comme ça qu'ils l'appellent, et puis peut conduire à une perte de contrôle de soi-même, une forme d'état second dans certaines situations, et même parfois une forme de folie, on va dire. La personne est devenue folle, il est fou, et il a pris son fusil et il a tué. Et il y a beaucoup, beaucoup d'histoires qu'on m'a racontées, d'histoires qui se passent dans les environs immédiats des localités où j'ai résidé, et en particulier, par exemple, celle avec laquelle je commence l'article, par exemple, voilà, d'un homme qui s'était rendu à l'inauguration d'une maison, il était invité. Et à cette inauguration-là, il y avait une femme avec laquelle il avait une querelle, je ne sais pas exactement quoi, quelque chose probablement pas très grave, mais qui était là. Et cette femme-là a commencé à chanter des chants d'insultes, etc. Rien ne s'est passé. Et lui ensuite a commencé à chanter à son tour ce genre-là, Carato. Il s'est échauffé lui-même. Et ce qu'on m'a dit, il a un peu perdu la tête. Il a pris son fusil qui était posé contre le pas de la porte et il a tiré et il a tué la femme. Donc, des histoires comme ça, y en a beaucoup, avec cette idée que dès qu'on chante, en fait, il y a toujours une sorte de prise de risque derrière. C'est-à-dire que le chanteur qui va chanter sait que, il y a, même si on est dans un contexte de joie, parce que cette fameuse ardeur dont je vous ai parlé au début, ça peut être aussi quelque chose qui est très joyeux. Ça peut être aussi un peu, on a bu, on est très content d'être entre nous, on chante, c'est un peu désordonné comme ça. Donc ça peut être très joyeux et ça peut commencer comme ça. Et il y a toujours ce risque que ça glisse vers quelque chose de la colère et que là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, qui est une perte de contrôle et que quelqu'un, soit le chanteur, soit un des auditeurs, prennent son fusil et tirent. Et donc ce risque, d'où en même temps une certaine réticence que peuvent avoir les gens à chanter, et dont je me suis rendu compte avant même de savoir tout ça, je m'en étais rendu compte très vite, c'est-à-dire que les gens, on ne peut pas arriver et dire à quelqu'un, vas-y, chante. Quoi. Ça, ce n'est pas possible. La personne va toujours se dire, non, moi, je ne sais pas chanter, etc. Et ce n'est pas simplement des raisons d'humilité, bon, ça, c'est généralement pas le cas, mais même simplement qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'il y a toujours cette cette prise de risque. Et même dans les moments où on est censé chanter, les fêtes, etc., les débuts sont toujours flous. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Qui c'est qui commence? Et donc après, ça commence et ça se lance. Mais il y a toujours ce truc, sorte de, un peu de réticence comme ça, avec l'idée que si on veut être sûr de ne pas être emmené dans un état où on va tuer, et ben la meilleure solution, c'est de ne pas chanter. Et ça, c'est un truc que les gens affirment qu'ils font. C'est-à-dire que, par exemple, quand on passe à un stade, on devient un vieux, par exemple, quelqu'un qui va devenir un médiateur, qui est censé être sage, etc. Typiquement, les gens qui deviennent des vieux, ils arrêtent de chanter. Et ils me disent, même s'ils avaient une réputation d'être des excellents chanteurs, ils vont dire « Ah, moi, je ne chante plus parce que bah, c'est pas possible, c'est trop dangereux, je ne peux pas, je suis un vieux, je suis sage, etc. » Et c'est pareil, j'ai des histoires, et j'en raconte dans l'article, de personnes qui ont décidé d'arrêter de chanter. Il y en avait en particulier qui a décidé de devenir un sage et d'arrêter de chanter après qu'il a failli conduire une vengeance à son bout et qui s'est rendu compte en dernier moment que ce n'était pas la bonne personne en fait, qu'il avait en face de lui. Et il s'est arrêté et il s'est assis à côté de lui et ils ont passé la nuit à discuter. Et le lendemain, c'était voilà, c'est fini pour moi, je finis. Donc là, il y a un peu toute cette idée-là. Alors, l'idée, voilà, il y a énormément de récits, énormément de choses qui se passent. Et donc, dans cet article-là, ce que je voulais me poser comme question, c'était bah, voilà, prendre au sérieux ça, c'est-à-dire, est-ce que véritablement il y a quelque chose en rapport avec ce passage à l'acte, quoi ? Est-ce qu'on peut trouver un rapport entre le chant et le passage à l'acte ? Est-ce qu'il y a une efficacité du chant ? C'est-à-dire, que est-ce que le chant peut inciter des gens à tuer qui, par ailleurs, se seraient abstenus ? C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas chanté, ils n'auraient pas tué. Et donc, du coup, d'essayer de retourner sur les récits et de ce que je sais des performances pour essayer de voir ça... d'un son un peu plus détaillé.
Oui. Bon, on écoute la performance.
Je voulais juste.
Ah, non, vas-y, je t'en prie.
Juste très rapidement.
Gatel m'avait dit je ne pourrais pas tout présenter d'un coup, il va falloir que tu me poses des questions pour me lancer
et en fait,
tout
non.
Ça. En fait, non. Mais c'est tant mieux.
En fait, je voulais juste dire un truc avant, et après, je pense que ça sera le bon moment. Donc, en fait, voilà, j'ai commencé à regarder ça en détail et très vite, en fait, c'est compliqué et on se rend compte que les récits des gens... Donc, au premier abord, les récits, ça semble simple. Voilà, on chante, on a l'ardeur qui vient et puis paf, on prend son fusil et c'est fini. Et en fait, dès qu'on rentre déjà rien dans ça, on se rend compte que c'est pas clair, quoi, cette histoire-là. Et déjà, on... c'est pas clair. Déjà, qu'est-ce qui provoque ces émotions-là? C'est pas clair. Parce que le texte, les paroles sont extrêmement importantes. Elles ont un statut spécifique qui est... c'est pas comme les langages ordinaires, quoi. Le chant, on dit qu'il dit juste, c'est-à-dire que les gens disent leurs vraies intentions à travers le chant. On peut pas mentir, c'est-à-dire qu'on dit sa propre intentionnalité, on dit les choses. Mais en même temps, si on se contente de juste les dire sans les chanter, il se passe rien. Enfin, c'est tout à fait anodin. Donc du coup, il y a quelque chose dans la musique elle-même, le chant lui-même, mais là encore, c'est pas, et ça revient un peu à ce que disait Victor tout à l'heure, c'est pas clair parce que ça correspond pas tout à fait à ce qu'on estime être des choses justement qui peuvent entraîner, modifier le rythme cardiaque, les entraînements, c'est pas mesuré, vous allez l'entendre dans un instant, c'est pas mesuré, c'est chanté tout seul, c'est a cappella. Certes, on sent la tension, déjà la tension vocale très forte, vous allez l'entendre parce qu'il a presque plus de voix, celui qui chante tout à l'heure, mais la tension vocale est très forte, la tension musculaire également, mais de façon générale, enfin, c'est difficile d'imaginer que la musique entraîne, etc. Donc déjà c'est assez compliqué et puis après c'est pareil au niveau de la causalité, c'est pas simple non plus parce que parfois c'est les chanteurs qui se mettent dans un état eux-mêmes, parfois ce sont les auditeurs, des auditeurs qui peuvent avoir été complètement silencieux et puis tout d'un coup surgir. Il y a la question de est-ce qu'on manipule ou pas, parce que les femmes chantent aussi pour inciter les hommes à venger, et puis parfois il y a aussi des problèmes au niveau de la temporalité, c'est-à-dire que on va dire que c'est un chant qui a causé le meurtre, alors que le chant a eu lieu 2 ans auparavant, par exemple. Donc on se retrouve là dans des choses où on se dit qu'est-ce qui a pu voilà, se passer. Parfois on chante avant le meurtre, parfois on peut chanter aussi après. Donc il y a des choses comme ça où finalement, dès qu'on regarde en détail, le rapport entre l'acte et le chant se distend très vite. Et donc à un moment, on se demande si finalement, c'est pas simplement une sorte de rationalisation rétrospective, hein, de justification, notamment au niveau de responsabilité des gens, etc. De rationaliser après, c'est le chant qui a causé, alors qu'en fait, pas du tout. Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans la performance musicale qui se passe et qui aurait quelque chose de potentiellement transformateur, y compris sur un très long terme, et au-delà, on va dire, des effets émotionnels immédiats qu'il y aurait. Et c'est là, en fait, que j'ai voulu essayer d'aller voir. En essayant de voir ce qui se passait exactement dans les performances elles-mêmes.
Que l'on va écouter.
Cool, on va écouter. Eh bien, pourquoi pas? On va l'écouter et puis je dirai la suite après. Alors, c'est... Ouais, voilà. On va écouter ça. Donc, c'est là... Ouais. Donc, juste un petit peu quand même pour qu'il y avait beaucoup d'enjeux parce que... Enfin, il y avait... Voilà, beaucoup d'enjeux de personnes qui étaient en querelle avec d'autres, etc. Et il y a eu des moments où, à l'intérieur de la performance, ça a failli dégénérer, puis finalement, tout s'est bien passé. Et alors, c'était de nuit, donc en fait, je n'ai pas pu filmer parce que je n'avais pas de caméra à vision nocturne. Le laboratoire ne m'avait pas donné de super matériel à l'époque. Et donc, du coup, ce que j'ai fait pour qu'on comprenne mieux, c'est que j'ai mis, notamment pour que vous voyez un peu les études corporelles, j'ai mis des images qui sont issues, elles, d'une performance qui avait eu deux jours. Donc, elles ne correspondent pas. Voilà. Et ce que vous allez voir, ce qui est assez important, c'est que vous allez voir qu'il ne s'agit pas d'une performance où on chante et les gens écoutent, mais qu'en fait, on a un investissement collectif en fait, du chanteur et des auditeurs ensemble, puisque les auditeurs sont censés répondre par des exclamations tout au long de la performance, et notamment du poème qui va se dérouler petit à petit. Voilà. Donc on peut y aller. Ah, qu'est-ce qu'on a entendu ici? Donc on entend quelqu'un qui prend son tour dans le chant, et qui le fait donc de cette façon qui est habituelle, où on va déstructurer donc les chants, ce sont des distiques qui riment, et donc je vous dis tout à l'heure qu'ils sont très importants puisque ils sont, si vous voulez, des indications de l'intention de la personne et notamment de sa prise de position personnelle dans les conflits qui agitent la communauté, etc. Et donc du coup, les gens sont très attentifs à ce que la personne est en train de dire et éventuellement de ce qu'ils vont ensuite chanter et lui répondre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le poème n'est pas énoncé directement. Ici, le poème, c'était... je tremble comme l'arbre sur la falaise, je ne vivrai pas plus après mon heure, je ne mourrai pas avant mon heure, quelque chose comme ça. Mais il ne le dit pas comme ça. Il va déstructurer le poème, répéter les mots plusieurs fois, rajouter des mots, etc. Et donc, les auditeurs qui sont là doivent ce qu'ils appellent attraper le poème, c'est-à-dire l'écouter phrase après phrase chantée, reconnaître les mots, enlever celles qui estiment n'être pas partie du poème, reconnaître ceux qui font partie du poème, sachant qu'il y a aussi beaucoup de mots ajoutés, de syllabes non significatives, je ne les ai pas trop mises ici, etc. Et il y a aussi toutes sortes de noms de personnes, vous avez vu qu'ils sont mentionnés là, qui sont des noms de personnes qui sont dans l'auditoire. Donc en fait, on interpelle les personnes qui sont autour de soi, qui vont répondre avec ces exclamations, dis-le ainsi, continue, etc. Et ce n'est pas simplement ces personnes-là qui vont répondre, mais aussi d'autres personnes à côté qui vont se sentir concernées par ce nom-là. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils disent, c'est « moi, le frère des gens de Bidule ». Et donc, Bidule peut répondre « oui, ouais », comme ça, mais également, par exemple, le cousin de Bidule, parce que le cousin de Bidule fait partie des gens de, c'est-à-dire ce qu'on appelle sur place des partisans, des gens qui soutiennent, sont susceptibles de l'aider, etc. Donc ce qu'est en train de faire le chanteur, c'est de mobiliser toutes sortes de personnes qui sont autour de lui, en mobilisant son réseau personnel et toutes les autres personnes qui peuvent se reconnaître dans les réseaux personnels de ceux qui l'appellent. Et donc il conduit ainsi les gens autour de lui à faire, on va dire, corps avec son chant. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens répondent et donc s'investissent avec lui, s'engagent quelque part avec lui, avant même de savoir quel est le sens du poème. Et c'est ça, en fait, donc, que je me suis rendu compte en travaillant pour cet article-là, en retournant sur ça, que j'avais en fait un peu manqué avant. C'est-à-dire que les gens affirment leur soutien à la personne sans savoir ce qu'il va dire. Et c'est là qu'on voit que dans ces histoires de passage à l'acte et de meurtre, ce qui devient intéressant, c'est aussi ça qui se joue. C'est-à-dire que le chanteur construit la légitimité de sa position et incite les gens à
lui donner un blanc-seing d'une certaine manière.
Exactement. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, quoi qu'il se passe après, c'est-à-dire s'il prend son fusil, s'il tire, etc., les gens l'auront quelque part approuvé auparavant. Et on rejoint là la question qui est fondamentale, qui est, et en retournant au rapport au passage à l'acte, qui est celle de acte légitime et acte illégitime. Et c'est quelque chose d'assez central, puisque dans cette société-là, tous les meurtres se valent pas, enfin, tous sont pas légitimes. Tuer une femme, par exemple, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est absolument pas légitime. Et on s'en rend compte aussi dans le rapport au champ que cela induit. D'abord, on a dit que la personne était devenue fou. Et ça, j'ai remarqué que cette perte de contrôle, on la mentionne spécifiquement quand ce n'était pas légitime. Quand l'acte était légitime, on ne dit pas ça. On dit l'ardeur lui est venue et puis il a accompli la vengeance. Il est devenu fou. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand moi, j'ai demandé ben, qu'est-ce qu'il a chanté exactement, c'était quoi les poèmes, tout le monde m'assurait qu'il ne savait pas, qu'il les avait oubliés, quelle idée, moi, je ne me souviens pas de ça, etc. C'est-à-dire une sorte de désengagement du chant qui s'est passé, y compris des propres réactions qu'on a pu avoir en l'écoutant avant qu'il passe à l'acte, etc. Et d'oubli du chant en question qui, quelque part, voilà, c'est le chant qu'il a fait tuer, mais on ne sait pas ce qu'il a chanté, et puis d'ailleurs, voilà, etc. Tandis que dans le cas des actes légitimes, notamment le cas le plus fort, c'est celui évidemment d'accomplir une vengeance, là, on ne va pas estimer que la personne a vraiment perdu le contrôle, et surtout, on va aller rechanter les chants. Notamment, c'est cela qu'on va rechanter dans la solitude, qu'on va rappeler, etc. Et on va toujours, si vous voulez, l'ardeur dont a été investi, le chanteur, va résonner en fait chez les autres personnes. C'est-à-dire que quelque part, c'est la sienne, mais c'est aussi ceux de tout seul qui approuve sa position, etc. Et voilà. Et donc tout l'enjeu est là, c'est-à-dire que dans cet endroit où finalement les gens n'ont pas forcément, comment dire, ces fameux partisans qu'on a, c'est pas un donné, quoi. C'est quelque chose qui se construit, qui se préserve, qui se maintient, etc. Tout l'enjeu des performances, c'est aussi ça, c'est-à-dire de à chaque fois et à chaque réitération, de quelque part s'assurer de ses soutiens, s'assurer que sa position dans tel et tel conflit est bien soutenue par les autres et que la décision éventuelle, y compris la violence, mais ça peut être aussi une autre qu'on va prendre, quelque part sera soutenue. Et c'est là, finalement, cette idée de, quelque part, sortir de l'idée d'un effet émotionnel un peu mécanique, un peu que présentent les récits, et de voir que, quelque part, il se joue des enjeux qui sont, certes, d'intensité émotionnelle, mais aussi de relationnel, etc., dans tout ça. Et que, du coup, c'est pour ça que le chant est, quelque part, une bonne explication pour eux au fait que quelqu'un est passé à l'acte.
Merci beaucoup. Je pense qu'on peut sans plus tarder passer aux questions, si vous avez des questions à nos auteurs. Ils sont là pour vous répondre. Ah oui, un point extrêmement important, le numéro est à vendre à la sortie. N'hésitez pas, vous arrivez. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut tuer... enfin, est-ce que le meurtre peut avoir lieu au cours de la séance?
Oui, tout à fait. Oui, ça arrive. Par exemple, le premier que j'indique, c'est véritablement ça. L'homme a perdu contrôle de lui-même et a tué la femme en question. Et ça, il y en a pas mal des récits de ce type-là. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a toujours ce risque de que ça glisse, que ça déborde, et que finalement, quand on se lance dans le champ, voilà. Et quand ils ont vu, voilà, que le. Alors, dans la vidéo que je vous ai présentée, c'est vraiment intéressant cette joute, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi, dans l'heure et demie qui se passe. Moi, j'ai appelé ça une conversation chantée, parce qu'ils sont en train d'argumenter les uns avec les autres. Et au début, le problème, c'est un problème de cet homme-là avec des gens qui ne sont pas là, et avec qui il a des problèmes de terre, c'est une autre localité, etc. Et progressivement, le problème, c'est « Oui, mais non, mais c'est vous, parce que vous ne m'avez pas soutenu. » Et donc, il commence à accuser, même il les insulte d'être des poltrons, etc., les gens qui sont présents. Et on sent bien qu'il y a un moment une tension et une crainte, notamment de l'hôte, celui qui a invité les gens, que les choses débordent. Et c'est celui qui prend, notamment à la fin, là, celui que je vous ai montré, qui l'incite à se calmer, qui prend par le bras, qui lui dit « Non, tu ne peux pas, parce qu'elle a peur. » Mais c'est aussi un argument, en fait. Bien sûr, j'avais peur, mais c'était voilà, un argument pour le calmer, le forcer à s'asseoir, etc. Parce qu'on sait que oui, ça arrive pas tout le temps, évidemment, mais c'est des choses qui peuvent arriver.
Et il arrive que le chanteur soit tué?
Ah, c'est une bonne question, ça. Non, je pense pas. Enfin, j'en ai pas entendu parler de ça, mais ça me semble pas plausible parce que justement, si l'ardeur elle vient, c'est sur la prise de position personnelle du chanteur. Par contre, on a des querelles très violentes qui peuvent arriver en joute où deux personnes s'affrontent dans la joute et là l'autre peut répondre et éventuellement après sa réponse, voilà, enfin des choses comme ça, mais ça paraît pas logique.
Je vois pas de questions, même pas sur le pass Navigo.
Bonsoir. Je voulais poser deux questions, une pour vous et une à Katel Morand. La première, c'est les images de la foule et de la dispersion de la foule par le son m'ont fait penser aux boîtes qui ont été imaginées apparemment, en tout cas c'est ce qu'on a lu dans la presse, pour les mettre dans les cages d'escalier et qui toucheraient certains âges de population plutôt que d'autres. Et je voulais savoir s'il y avait des usages discriminants du son pour justement créer un espace public qui en fait serait différencié selon les perceptions qu'auraient les gens et quels seraient les critères à ce moment-là de lecture. Là c'était l'âge, mais est-ce qu'il y en a d'autres ou pas, quoi?
Oui. Bah, de fait, en fait, c'est le seul dispositif qui peut faire ça, celui que vous évoquez, qui s'appelle le Mosquito. Je l'ai là. En fait, il a deux versions. Il peut émettre deux tonalités différentes, une qui est audible seulement par les plus jeunes, puisque l'oreille humaine vieillit très rapidement, et donc à partir de 25 ans, on n'entend plus les très hautes fréquences. Et donc, ils émettent sur ces très hautes fréquences pour viser uniquement les jeunes. Et l'autre, en fait, que tout le monde peut entendre, qui est un son assez aigu, désagréable, intermittent, et un petit reportage de la BBC dans les couloirs du métro londonien, puisque le métro londonien l'utilise pour faire circuler les gens plus vite. Et effectivement, ça joue le rôle de, oblige ou incite fortement, en tout cas, à certains usages précis de l'espace public. Les McDonald's aussi ils mettent le top 50 à l'intérieur du magasin, mais à l'extérieur il y a des mosquitos sur certains McDonald's parce que en fait on n'est pas là pour socialiser à l'extérieur d'un McDo, on est là pour venir consommer à l'intérieur et après quand c'est fini on s'en va. Et pareil dans des lycées aux États-Unis, il y a des mosquitos qui sont déclenchés à l'issue des cours parce que voilà à la fin des cours le lycée n'est plus un lieu de socialisation souhaité par la direction. On peut peut-être écouter ce que ça donne comme son.
On peut écouter si on a moins de 40 ans.
Mais c'est très... Non, mais si, ça va marcher parce que là, c'est le mode audible par tout le monde. C'est beaucoup aux États-Unis. C'est un dispositif britannique. Et il y avait une énorme campagne en Grande-Bretagne menée par le défenseur des enfants, mais qui avait échoué en fait à le faire interdire. Il y a eu des velléités de le faire interdire au niveau européen aussi, et qui n'ont pas abouti. Et donc en fait, donc aux États-Unis, il est effectivement présent. Il est présent en France, notamment dans le sud de la France. Il y a des syndics de copropriété qui s'en sont équipés. Mais en France, en fait, il y a eu déjà une très mauvaise réception au niveau politique et au niveau de la classe politique et au niveau du public au moment où il a été introduit par une boîte qui s'appelait Beethoven, qui l'avait appelé Beethoven et qui avait pris comme slogan le son qui adoucit les mœurs, de manière un petit peu autoritaire, on va dire. Mais voilà. Et en fait, ils avaient eu une tellement mauvaise réception qu'ils ont cessé la commercialisation. En tout cas, cette boîte-là ne le fait plus, mais on peut l'acheter sur Internet librement. Et le son passe pas.
Le VLC d'ici a plus de 40 ans, il ne supporte pas le format audio vidéo.
Ah, d'accord. L'image passe, mais pas le son. Bon, c'est un petit bip très régulier qui est beaucoup moins fort que le LRAD, mais qui est quand même savamment calibré pour se situer juste au-dessus du seuil qui va gêner l'oreille, mais en dessous de ce qui pourrait être légalement répréhensible, on va dire. Donc, il navigue très prudemment, on va dire, la boîte CSS, la boîte qui fabrique le mosquito. Pour faire ça. Il est même inclus, en fait, il y a une boîte qui fait des jeux pour enfants, des toboggans, des balançoires, à destination des collectivités publiques, qui en a inclus, en fait, dans ces toboggans et les balançoires, comme ça, quand le parc ferme à 18h, quand les enfants vont prendre le bain, pof, on déclenche les mosquitos, et puis en mode audible par tout le monde. Et comme ça, on s'assure que le parc ne sera pas utilisé par des personnes. Voilà, en dehors de ces horaires d'ouverture. Et de fait, donc c'est un usage qui est extrêmement problématique à plusieurs titres, parce que bon, déjà en mode jeune, on va dire, c'est un usage qui est non discriminant, c'est-à-dire il s'adresse à l'ensemble de la population de moins de 25 ans, y compris les nourrissons, qui peuvent pleurer sans que les parents comprennent pourquoi. Y compris des gens qui sont là pour de très bonnes raisons, Et même, en fait, pour les personnes qui seraient là pour de mauvaises raisons, en fait, au nom de, enfin, au niveau constitutionnel, au niveau légal, on ne serait pas, enfin, normal. C'est il n'est pas admissible, en fait, qu'on puisse les éjecter d'un espace public arbitrairement de cette manière-là. Donc, c'est problématique à beaucoup de niveaux. Et pourtant, ça passe parce que c'est du son.
Comment se fait-il que ça passe au niveau des instances européennes ? Quels sont les arguments pour et contre ? Est-ce qu'il y a controverse ?
En fait, ce qui est, je pense que joue beaucoup le fait que les, il a, son usage le plus qui pose le plus polémique, on va dire, c'est vis-à-vis des moins de 25 ans, parce que ça vise aussi des enfants potentiellement, donc, ou des animaux d'ailleurs, qui entendent très bien ces fréquences-là. Et en fait, je pense qu'il y a une grosse partie qui est très liée au fait que les personnes qui légifèrent ne l'entendent tout simplement pas, donc ne perçoivent pas cette nuisance. Il y a eu un documentaire assez drôle où, dans lequel on entendait en fait une jeune femme de 35 ans qui, elle, continuait à entendre les très hautes fréquences et qui, du coup, appelait la police parce que sur son lieu de travail, elle en entendait. Elle entendait un mosquito, ce qui la gênait considérablement, ce qu'on peut comprendre. Et en fait, la police arrive et ils n'entendent rien. Et en fait, c'est un discours, mais c'est complètement hallucinant, la séquence, qui disent « Vous êtes sûr que ce n'est pas le son des arbres que vous entendez ?» Non, de toute façon, les arbres, voilà, les arbres font pas de bruit. Ah bah voilà, bah écoutons. Voilà. Vous entendez ce petit son ? Voilà, c'est désagréable, quoi, c'est pas... Oui. Bon, voilà, on peut arrêter. Hein,
et il existe des sons qui font du mal qu'aux personnes âgées ou...
Un sonotone déréglé, je ne sais pas. Un bon Larsen. Non, c'est pas. Bon, en plus, les personnes âgées ne sont pas considérées comme des indésirables, en tout cas au niveau social, au niveau de leur efficacité dans l'espace public. Donc elles ne sont pas considérées comme des cibles de première. Mais bon, voilà. Après, ce sont des usages qui sont... Et donc, bon, je pense que pour finir de répondre à ta question, c'est très lié justement à la capacité de se rendre compte de la nuisance réelle que ça peut créer. Et derrière ça, en fait, de manière beaucoup plus générale, le son représente une zone floue au niveau juridique. La même façon, on retrouve en fait ce flou juridique à plein de niveaux. Par exemple, le LRAD, il a été commercialisé en direction de la Chine, alors qu'il y a un embargo en fait sur les ventes d'armes à la Chine depuis Tiananmen. Et la boîte en fait qui commercialise le LRAD joue sur les deux tableaux à la fois. En fait, à ses clients militaires ou policiers, on va dire que c'est une arme super efficace. D'ailleurs, le premier usage, en fait, c'était sur les bateaux de la marine états-unienne pour tenir à distance les pirates, notamment les pirates somaliens. C'était eux les premières cibles, en fait, parce que ça envoie une alarme qui permet de créer une zone d'exclusion autour du navire. Et à ses clients, on va dire, plus institutionnels, ils vont tenir un discours genre « Non, c'est tout à fait inoffensif, vous inquiétez pas, personne n'a jamais été blessé par ça, de toute façon, c'est que du son, c'est rien, on va dire. » Et donc, on joue en permanence sur ces deux tableaux. Et il y a une vraie difficulté, en fait, à apprécier les effets réels du son, qui est savamment entretenu par l'industrie des armes acoustiques elles-mêmes, qui vont à la fois dire, les gens du LRAD vont à la fois dire, à un moment donné, « ça peut renverser une vache sur le dos », et puis après, d'un autre côté, ils vont dire non, c'est juste un dispositif de communication de masse. Ils ont fait un gros lobbying juste avant le sommet du G20 à Toronto, cette fois. Ils ont envoyé des communiqués à la presse avant le sommet, parce qu'ils venaient d'équiper la police de Toronto en LRAD, en disant « nous vous demandons de ne pas utiliser le terme d'arme acoustique, ce n'est pas une arme, c'est un dispositif de communication. » Voilà, mais la communication qui peut rendre sourd, quoi, et puis un petit peu unilatéral.
Qui a l'air de faire sortir des liens. Kids are using mosquito ringtones, adults can't hear.
Oui, voilà.
Et d'autres utilisations, donc vos enfants peut-être utilise en mettant ça comme sonnerie, du coup, peut
voilà,
tourner
pour
les interdits parentaux.
Leur téléphone en cours, se téléphoner en cours sans que les profs s'en aperçoivent, effectivement. Ça a été détourné très, très vite. Mais bon, après, il y a aussi beaucoup de. Bon.
Oui.
Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que monsieur avait une deuxième question qui n'était pas pour moi, je crois.
C'est le seul cas qu'on connaisse de, comme ça, de distinction entre des personnes?
Non, bah en fait, la musique d'ambiance vise également à faire cette partition-là. Par exemple, en fait, le marché de la musique d'ambiance est constitué dans un usage productiviste au départ, c'est-à-dire donc améliorer la productivité dans les usines et ensuite améliorer une sorte de productivité consumériste, on va dire, inciter à l'achat dans les magasins, travailler sur la bande-son du magasin ou du restaurant ou de l'hôtel pour inciter les gens à l'achat. Donc vous trouverez des centaines et des centaines d'études qui vont vous dire que ça marche super bien, ceci étant, j'en suis beaucoup moins persuadée. Et une des rares personnes qui a fait une étude transversale, synthétique sur le sujet, qui s'appelle Sophie Rionnier, avait conclu que les résultats sont non significatifs et non convergents. En d'autres termes, il y a le marché de la musique d'ambiance se construit sur le discours d'une efficacité de la musique, mais en fait, c'est le discours en tant que tel qui compte. En fait, l'efficacité réelle est beaucoup plus spécieuse. Reste qu'à partir des années 90, la musique d'ambiance était tellement développée qu'il y a de nouveaux usages qui sont apparus. Il y a des chaînes de magasins qui se sont abonnées aux playlists de Musac, la principale boîte qui faisait de la musique d'ambiance à l'époque. Ils se sont abonnés à des chaînes de Musac, mais pour obtenir un effet répulsif. Ils s'abonnaient à la chaîne grand ténor d'opéra, par exemple, pour faire fuir les jeunes. Et en fait, ce discours-là, enfin, on voit régulièrement ressurgir dans la presse. C'est un peu un marronnier, en fait, cet usage-là du son. Par exemple, il y a un parc en Belgique où ils ont décidé de diffuser de la musique classique pour faire fuir les jeunes. De manière inverse, il y a certaines chaînes de magasins qui mettent volontairement la musique à un très fort niveau et de la musique extrêmement rythmée pour faire fuir les vieux. Donc en fait, il y a toujours un discours sur cette efficacité de la musique. Après, est-ce que Mozart fait spontanément, magiquement fuir tous les moins de 25 ans? Je ne l'ai jamais vu. Mais en fait, le rôle de la musique dans ce cas-là, c'est de tenir un discours sur l'espace. Et c'est là en fait où elle devient effective. C'est-à-dire elle va signaler aux personnes qui vont traverser un espace qu'elles sont indésirables ou au contraire qu'elles sont désirables dans cet espace. Elle va leur signaler quels sont les comportements qui sont attendus dans l'espace, acheter ou bien être calme. Elle va énoncer tout un règlement de l'espace. Et première chose d'ailleurs, elle va d'abord formuler l'existence d'une autorité qui gère cet espace, qui a capacité à diffuser et qui a capacité à délimiter son territoire de façon acoustique. Donc pour moi, l'efficacité de la musique d'ambiance, de ces usages-là, on va dire, de comportementalistes, ou supposément comportementalistes de la musique d'ambiance, voilà, réside pas dans la musique elle-même, mais dans le discours qui est tenu sur la musique et qui est tenu par la musique.
D'ambiance. Et si on a eu des idées
Oui, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent très bien le versant disciplinaire du musique Morley ici, qui pourraient nous répondre, je ne sais pas.
Comme je travaille ici, je vais me permettre juste de dire deux mots, parce que de manière générale, vous l'entendez, il n'y a pas de musique dans les plateaux d'exposition. Moi, j'avais vu à Londres une musique qui, justement, avait décidé de faire ça de manière active, c'est-à-dire de présenter des tableaux en lien avec des compositions. Mais c'était présenté comme une démarche vraiment spécifique où l'exposition tenait à ça, justement. Et est-ce qu'on pouvait associer un certain type de peinture avec un certain type de musique? Et du coup, avec la question de savoir s'il devait y avoir une sorte d'homologie ou au contraire, est-ce qu'un tableau pouvait se proposer d'avoir plusieurs types de musique qui l'accompagneraient et qu'est-ce que ça ferait d'avoir ce choix-là, etc. Donc, mais c'était présenté comme tel, donc je pense que ça dit en négatif qu'il y a très peu d'accompagnement musical, que c'est jamais perçu comme tel et c'est pas intégré du tout dans l'accompagnement de l'exposition.
Il y a un petit peu de son dans le silo des instruments de musique. Et sur le plateau des collections, il y a quelques programmes multimédia qui comportent du son.
Pour la musique, quoi, voilà, pour parler, enfin pour donner des exemples d'instruments qui, ou des choses comme ça. Et il y a des vidéos sinon, mais c'est simplement dans le son des vidéos.
Les annonces, oui. Non, ce sont les agents, les hôtesses d'accueil qui les préenregistrent, mais donc c'est différentes voix.
Vous ne mettez pas un petit battement binaural derrière?
Non, il n'y a pas de petit battement.
Bonjour, merci pour la présentation. Un peu comme il existe la morphopsychologie, est-ce qu'il y a des études entre le lien d'une personnalité et le son d'une voix? Entre les vibres, vous parliez de vibrations, vous parliez d'un son grave, un son aigu.
Je n'ai pas une connaissance particulière, mais il y a des associations, c'est assez évident, enfin, qu'il y a des associations qui sont faites et des choix qui sont faits, notamment dans les voix qui vont annoncer les événements dans des lieux publics. Une voix d'homme ou une voix de femme, ce n'est pas pareil, ça ne véhicule pas la même chose. Donc je ne connais pas les études en tant que telles, je n'ai pas creusé cet aspect-là, mais je sais que Juliette Faulkner a écrit notamment sur la voix de la dame de la SNCF et la manière dont elle a remplacé le monsieur moustachu. Vous arriviez en gare de Perpignan et avant il y avait le chef de gare qui disait avec son accent que le train partait de la voie 2, et maintenant c'est la même dame qui s'appelle... Simone Leroux, et qui est la même depuis pas mal de temps, avec donc une intention assez claire de remplacer un type de représentation de ce qu'est la SNCF et de comment remplacer la voix du cheminot par une voix neutre et universelle pour la France entière. Donc là, il y a clairement des représentations qui vont avec et qui ont été... penser, étudier. Maintenant, je ne sais pas si des études... Moi, je n'ai pas lu des études sur des appariements statistiques, donc des études expérimentales sur la manière dont les gens apparient des voix avec des caractères. Mais ce serait une...
Il y a un petit... Enfin, je n'ai pas lu d'études spécifiquement là-dessus, mais j'en ai lu, par contre, sur comment étaient choisies les voix des assistants vocaux, ou plutôt des assistantes vocales, puisque ce sont essentiellement des voix féminines qui sont choisies. Et elles sont choisies justement pour leur timbre particulier, pour une certaine chaleur, et pour leur capacité à ne pas effrayer déjà, enfin à être à apporter une confiance en fait, à pouvoir être intime aussi. Puisque les assistants vocaux sont liés à des usages très personnels en fait de nos outils informatiques, et aussi pour des capacités qui relèvent de la psychoacoustique plus technique, c'est-à-dire pouvoir une voix de femme par exemple s'entend mieux sur un fond ambiant, elle ressort davantage qu'une voix d'homme. Des voix plus aiguës en fait ressortent davantage que les voix plus graves. Donc voilà, ce genre de considération.
Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une musique puisse rendre triste, quelle que soit la culture ?
Ça s'imagine tout à fait. Ça s'imagine tout à fait. Après, il y a des. Ça s'imagine et ça s'argumente. Un des arguments, donc c'est une thèse qui a été avancée notamment autour des lamentations. Je crois que c'est Charles Briggs, qui avait travaillé chez les Warao, mais qui a fait une théorie plus générale de ce qu'il appelait les
Icons of Crying, les icônes du pleur, dans la voix, dans la mélodisation de type lamentation ou d'autres choses tristes. Et donc, où il repérait en fait des sanglots, des ruptures de glottales, des manières d'utiliser le souffle, la pente descendante et d'autres traits qui en fait étaient pour lui des rappels du pleur. Le pleur est une manifestation assez, du point de vue sonore, qui est assez universelle et qu'on reconnaît en fait. Ça fait partie des. La tristesse est une des émotions qui, en principe, enfin, d'après les études, il y a eu pas mal d'études faites là-dessus, c'est une des cinq émotions primaires qui, en principe, marche assez bien de manière transculturelle. Et donc, par ce biais-là, des musiques qui imiteraient le pleur pourraient avoir une valeur émotionnelle universelle. Maintenant, en fait, cette tristesse qui... Oh, alors, c'est-à-dire qu'elle pourrait avoir la valeur de qu'on comprenne qu'il y a une tristesse dedans. Voilà. Rendre triste, c'est encore une autre histoire. C'est-à-dire que vous percevez qu'une musique est dans un certain état émotionnel, ça ne veut pas dire que l'état émotionnel se propage jusqu'à vous. Vous pouvez très bien le voir à l'extérieur. Mais en fait, après, en pratique, c'est une des choses qu'on voit en ethnomusicologie assez souvent, c'est qu'on se trompe très souvent, en fait. L'essentiel, enfin, les gens, un Européen de l'Ouest, a des grandes chances de trouver que 95% de la musique arabe est triste et plaintive, en fait. Et ça faisait partie des descriptions, voilà. Et c'est des descriptions de l'altérité culturelle des autour des expositions universelles, par exemple, les gens disaient leur musique. Alors, ça pouvait être les Arabes, ça pouvait être les Chinois aussi. Ce n'est que des miaulements de chats tristes, etc., qui se lamentent à longueur de journée. C'était. Je crois que c'était Berlioz qui avait écrit ça. Et donc, il y a de grandes chances de se tromper aussi de cette manière-là. En pratique, on voit que en fait, les émotions ne sont pas très bien comprises de manière interculturelle. Même une émotion comme la tristesse peut être beaucoup plus générale. Mais il y a cette théorie-là des marqueurs du pleur qui rentre un peu dans une autre catégorie. Voilà.
Il me semble aussi qu'il y a une idée assez prégnante en fait dans une certaine industrie de la musique commerciale, on va dire, l'idée que les accords majeurs sont des accords joyeux, tandis que les accords mineurs suggèrent la tristesse, le désespoir, l'anxiété, etc. Et bon, je ne me suis pas encore vraiment plongée là-dedans, je trouve que ça ressemble beaucoup aussi à une sorte de pensée magique de la musique. Que c'est beaucoup plus nuancé que ça, beaucoup plus fin que ça dans la réalité, mais de fait, ça va inciter certains designers de sons de téléphone, par exemple, à n'utiliser que des accords majeurs dans les sons des interfaces des smartphones, par exemple, et jamais d'accords mineurs. Donc il y a cette sorte de... Voilà. Et après, pour répondre sur un second plan à votre question, pas sur la musique, mais sur le son de manière générale, dans les années 70, aux États-Unis, il y a eu un gros programme de recherche qui s'appelait Disperse, enfin, c'était l'acronyme Disperse, son objectif en fait était de trouver un son universellement répulsif. Et le programme a été abandonné parce qu'il n'y a pas de son universellement répulsif. En fait, là, c'est d'ailleurs pour moi ce qui fait pour tempérer un peu toutes les horreurs que j'ai pu dire sur les capacités du son précédemment, ce qui fait l'échec du comportementalisme sonore, c'est précisément qu'il n'y a pas d'écoute universelle, il n'y a pas d'écoute moyenne, que chaque écoute est singulière, y compris un même morceau de musique, sur vous-même, ne va pas avoir le même impact selon tel ou tel moment de votre vie, selon l'humeur dans laquelle vous êtes, selon même le temps qu'il fait, peut-être, j'en sais rien, selon l'environnement où vous vous trouvez. C'est ce qui fait sempiternellement échouer en fait tous les robots de musique d'ambiance, c'est que notre écoute est beaucoup plus complexe que ça, elle est éminemment construite culturellement et socialement.
Alors, je voudrais juste ajouter quelque chose parce que je me souvenais pas de deux points ici de diffusion de musique. C'est le premier, c'est que dernièrement, on avait une responsable du fonds audiovisuel qui nous a quittés Et du coup, souvent, on me fait des demandes de céder des collections, et notamment pour les vernissages. Et donc, pour l'exposition Forêt natale, art de l'Afrique équatoriale, Atlantique, le département de la communication m'a demandé des CD en lien avec l'exposition pour passer pendant le vernissage. Voilà, donc j'ai pioché dans le. Bah, donc c'est, ça m'a un petit peu, sur le coup, ça m'a un petit peu gênée, choquée. Puis finalement, voilà, j'ai trouvé des choses assez intéressantes. Enfin, j'y étais pas au vernissage, donc je peux pas vous dire à quoi ça ressemblait. Et le deuxième point, c'est que ici. Notre directrice de la médiathèque nous a demandé de diffuser à partir de 13h30 des CD donc qui sont liés soit à la thématique. Donc, on a eu un quadrimestre sur la Colombie. On avait une exposition. Enfin bref, ce sont des CD qui ont été choisis en lien avec soit des expositions, soit à la thématique ici, etc. Et donc, à partir de 13h30, on diffuse... ces musiques, et ça a un impact, enfin les visiteurs, les lecteurs réagissent de façon assez différente, puisque on a ceux qui sont très contents, ceux qui sont super furieux, et on a notamment beaucoup de lycéens qui viennent bosser ici, qui sont pas censés venir bosser ici, parce qu'ils ne se servent absolument pas des livres, et que le règlement veut que cet endroit n'est accessible qu'aux gens qui viennent se servir des livres. Et donc ces lycéens qui viennent constamment râler, demander à ce qu'on baisse le son, etc. Du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la lecture, en fait. Est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'on peut se concentrer? Est-ce qu'on peut lire en écoutant la musique? Alors ça part d'un bon sentiment de la part de notre directrice, puisque moi aussi, je trouvais que c'était une bonne idée qu'on puisse valoriser le fond audiovisuel et faire connaître un peu les types de enfin, les différents CD qu'on a ici. Et voilà, ça, on a des réactions très très diverses, très très variées. Voilà. Je crois que, en plus, ça dépend beaucoup du CD, c'est-à-dire que quand on a des choses qui sont faciles à écouter, puis on en a d'autres qui sont pas du tout faciles à écouter. Donc chacun en permanence, pardon, je finis. Chacun qui est en permanence, on fait à tour de rôle des permanences. Il y a ceux qui prennent un malin plaisir à mettre des choses très difficiles à écouter, et puis d'autres qui ont besoin aussi de se concentrer sur leur boulot. Voilà, c'est tout.
Je voulais rajouter à ça, il y a tout un pan après qui est assez intéressant de recherche sur les usages de la musique à des fins de régulation émotionnelle, donc d'autorégulation émotionnelle. Et ça, c'est un usage qui est assez bien établi, et qu'en fait, vous êtes peut-être conscient pour vous-même, mais apparemment tout le monde fait, c'est-à-dire que surtout dans notre société où on peut choisir ce qu'on écoute, donc on a à disposition facilement des centaines de morceaux, on choisit certains morceaux qui conviennent ou non à une situation. Le fait d'opérer ce choix-là, on ne le fait pas en se disant je vais réguler mes émotions, évidemment, enfin, en général on ne le fait pas de cette manière-là, mais les psychologues qui travaillent là-dessus l'analysent en ces termes, et il y a notamment la théorie d'un échafaudage cognitif, c'est-à-dire la musique qui nous sert d'échafaudage comme une structure externe qui nous permet d'arriver à des états intérieurs auxquels on ne pourrait pas parvenir simplement par nous-mêmes. Par exemple, vous êtes extrêmement triste et la musique peut vous aider à sortir de ça d'une manière qui en donnant des ressources que vous n'avez pas. Ou à la fin d'une journée de travail un peu fatigante, la musique peut donner un dynamisme et changer les idées, comme on dit. Enfin, il y a tout un vocabulaire populaire autour de ça, qui peut s'analyser comme une technique de régulation émotionnelle. Mais on n'est pas tous égaux, effectivement, là-dedans, et les techniques des uns ne sont pas celles des autres. Certaines personnes utilisent, par exemple, la stratégie lorsqu'on est triste, faut-il écouter une musique triste ou faut-il écouter une musique gaie? Et bien là, si on faisait un petit sondage, je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent des musiques tristes lorsqu'ils sont tristes. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent des musiques gaies quand ils sont tristes? Oui, d'accord. Effectivement, donc, après, dans les statistiques, c'est à peu près, on est à peu près dans les 50-50. avec des explications différentes. L'une qui dit, eh bien, il faut se sortir de cet état-là. Allez, on va se secouer. On va écouter le contraire. Et l'autre qui dit, non, la musique. Donc, lorsqu'on écoute une musique triste, alors qu'on est triste, c'est que ça permet d'aller au fond du sentiment et que la musique agit alors comme un ami cher. Alors, il y a des personnifications après de la musique qui apparaissent comme un ami cher qui peut comprendre la douleur qu'on éprouve et donc du coup parvenir à la dépasser. Donc, on n'a pas tous les mêmes stratégies. On n'est pas tous égaux. Et c'est pareil pour l'utilisation de la lecture en parallèle d'autres choses. Donc on a mentionné le cas de la lecture et du travail intellectuel. Il y a des gens qui arrivent d'autre part. La conduite automobile, c'est un autre bon domaine où la musique aide. Il y a des aides ou n'aide pas, en fait. Hein, mais typiquement, il y a des musiques qui aident les gens à conduire plus longtemps. Enfin, les gens qui conduisent longtemps pensent qu'il y a des musiques qui les aident à conduire plus longtemps. C'est le cas des camionneurs pakistanais, par exemple. Il y a des cassettes, maintenant c'est sur des iPods, qui sont des compilations entières de Nusrat Fateh Ali Khan de 10 heures enchaînées, qui apparemment permettent de traverser de très grandes distances. Donc, mais ça marche avec certaines musiques et pas avec d'autres, évidemment. Donc il y a un savoir implicite et individualisé extrêmement fin sur l'usage de la musique afin de modifier nos propres états intérieurs. Ça, c'est assez valable, disons, tout le monde. Ce savoir-là, on le voit dès qu'on discute un peu avec des gens. L'unité de ce savoir et le fait que les mêmes musiques aient les mêmes effets, là, ça commence à être vraiment, vraiment problématique. Voilà.
Je vais vous demander ce que vous pensez de l'histoire des fréquences, parce que tout à l'heure vous parliez de en tout début là, je ne sais plus comment vous disiez, la musique node binaurale, et ça me fait penser aux travaux de Sternheimer je ne sais pas si vous connaissez, qui a travaillé sur l'incidence des fréquences, donc des sons et de la musique, sur la production de lait des vaches, par exemple. Donc ça rejoint, en fait, c'est vraiment une question autour de cette histoire de fréquence, parce que tout à l'heure vous disiez on est tous différents suivant notre culture, etc., et qu'on on vit pas certaines musiques de la même manière, suivant d'où on est, qui on est, etc. Et donc je me demandais si ça vous parlait, cette histoire de fréquence, ou si pour vous c'est un truc complètement délirant, quoi.
Ah, mais c'est complètement délirant, mais c'est génial. Du coup, c'est génial. Enfin, disons qu'en anthropologie, on aime bien les trucs délirants. Hein, vous voyez. Donc, non. Alors, après, il y a des études. Donc, on a essayé. Il y a eu diverses approches expérimentales de la question de l'influence de la musique sur des non-humains, donc sur des animaux, sur des animaux et sur des plantes aussi. Et sur des plantes. Alors ces études, bon, je ne les ai pas toutes lues, pour ça que je ne connais pas celle-ci en particulier, elles donnent des résultats divers, mais souvent positifs. C'est assez étonnant. Donc on a pu montrer que, par exemple, alors, avant d'arriver sur les résultats positifs, dire là où il peut y avoir un petit problème. Dans les en neurosciences, depuis le début des années 2000, il y a un paradigme qui s'est bien mis en place, qui est que, de façon expérimentale, qui est que la musique active le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est un circuit qui arrive assez tôt dans l'évolution de l'espèce et qui est activé, qui nous fournit des plaisirs liés à la satisfaction des besoins primaires, la nourriture, le plaisir sexuel et quelques autres, et qui est aussi pris pour cible par les drogues récréatives comme la cocaïne ou les amphétamines et qui stimulent donc la production de dopamine. Et donc on a pu montrer ces Blood et Zator et qui ont montré au Canada en 2001 que la musique activait aussi le circuit de la récompense et produisait une production de dopamine qui se traduit chez certains auditeurs particulièrement corporels, disons, qui corporalisent leur écoute par des frissons le long de la colonne vertébrale, des pleurs et des petits frissons de la peau qu'on a appelé des orgasmes de la peau. Alors après, c'est emparé de ça, donc la musique procure des orgasmes. Mais donc il y a vraiment un parallèle qui a été fait et qui a été extrêmement popularisé ensuite. Ce qui est assez, là où ça commence à devenir très intéressant, mais c'est que en fait, on a pu montrer à peu près la même chose dans le domaine animal. On a pu montrer au Japon que des souris âgées de 12 semaines produisaient elles aussi davantage de dopamine sous l'effet du divertissement au ré majeur de Mozart, qu'elles écoutaient 12 heures par jour en boucle. Et à la fin, donc on les disséquait, on constatait qu'il y avait davantage de dopamine dans le cerveau des souris qui avaient écouté. Et ça marche aussi avec les poules. Donc des poules qui ont écouté de la musique ont davantage de dopamine dans leur cerveau que des poules qui n'en ont pas écouté. Les carpes, ça marche aussi avec des poissons, des carpes qui écoutent. Alors ça, c'est une expérience faite en Inde. Donc l'expérience a été faite avec un raga en particulier. Les carpes qui écoutent ce raga joué au violon pendant 3 heures par jour gagnent plus de poids que les carpes qui n'en écoutent pas. Et lorsqu'on change les carpes de bocal, celles qui n'avaient pas écouté commencent à gagner plus de poids que d'autres. Donc ça fait un faisceau d'expériences qui sont souvent un petit peu insolites. Alors, il y a aussi des expériences non concluantes. Par exemple, on n'a pas pu montrer que... il y a une expérience qui essayait de voir ça si les cochons aussi grossissaient davantage. Et ça, non. Les cochons ne grossissent pas davantage. Donc, donner de la musique à des porcs n'est pas une option pour les éleveurs. Ou peut-être on n'a pas trouvé. Voilà. Parce que, par exemple, dans l'exemple japonais, le divertissement au ré majeur, ils ont essayé une centaine de morceaux avant de trouver qu'il y avait... Donc, ça ne marche pas avec d'autres morceaux de Mozart, même. Donc ça pose. Alors après, il y a deux lectures possibles de ces résultats-là. L'un qui est que, c'est très étonnant. Et il y a des effets comme ça, un petit peu magiques, pour lesquels la science n'a pas encore d'explication. Mais peut-être qu'on en aura une un jour. Si on va sur cette voie-là, on a aussi un problème avec les autres études que je mentionnais précédemment, qui sont celles du circuit de la récompense chez les humains. Parce que si la musique active le circuit de la récompense chez les humains et chez les souris, y a un problème de savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est simplement des fréquences sonores? Est-ce que la théorie qui explique pourquoi des humains auraient davantage de dopamine sous l'effet de la musique de Mozart, c'est une théorie qui est très liée à la musique tonale européenne et qui est cette histoire d'attente. Vous voyez, c'est-à-dire que la musique produit des attentes, une série de tensions, résolutions, et ce mécanisme des attentes, c'est un petit peu comme l'attente et la satisfaction d'un besoin primaire. Et donc, du coup, on a voulu expliquer de cette manière-là que la dopamine soit relâchée chez l'humain. Mais ça ne marche pas chez la carpe, en fait. C'est beaucoup plus difficile chez la carpe. Donc, tenir tout ça ensemble, c'est vraiment compliqué. Non. Mais l'autre variante, c'est de dire que peut-être qu'il y a un problème dans l'approche, dans la démonstrabilité, dans la fabrication des faits scientifiques. Et sur ce plan-là, il y a tout un tas de théories anthropologiques aussi qui, sur la manière dont on construit un résultat scientifique, qui conduisent à s'interroger un petit peu sur, mais la discussion nous entraînerait trop loin, sur ce qu'est une démonstration, ce qu'est une expérience, ce qu'est une preuve. Il y a beaucoup de glissements, en fait, dans les expériences entre des hypothèses initiales et la manière et la conclusion qui est tirée. On peut pour résumer.
Rapidement, je voulais rajouter quelque chose. C'est vrai que, je dirais, empiriquement, d'un point de vue ethnographique, il y a énormément de choses sur les réactions animales à la musique, tel rituel pour les chamelles, par exemple, qui ne donnent pas de lait, etc. Et c'est quelque chose qui, quelque part, revient. On disait, les effets de la musique, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans les récits des gens. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent. Hein, quand on est dans des sociétés rurales, moi, là où j'étais aussi, j'étais confrontée au rapport avec les vaches en particulier, pour lesquelles on fait une musique particulière, elles produisent plus de lait, etc. Donc, il y a tout un discours. Et je pense que ce qui est intéressant quand on veut travailler là-dessus, et c'est un peu comme pour aussi sur les émotions, etc., c'est parfois, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une société où on conçoit maintenant beaucoup le rapport au son, dans cette idée de l'idée de ce qu'a rapporté la technologie, c'est-à-dire qu'on a le son qui existe en lui-même, qui est sur un enregistrement, on met le casque, on écoute, et on a le stimulus, et on va voir la réponse. Et en réalité, on se rend compte dans encore beaucoup de sociétés qui fonctionnent pas comme ça, ou même dans toutes sortes de situations musicales, on est dans des choses où ce sont aussi des relations qui sont mises en compte. Et ces études de cognition musicale, de neurosciences, etc., ont de la difficulté à prendre en compte tout cet aspect très fort. On en a beaucoup discuté de ce genre de choses, très fort de ce qu'il y a des relations humaines, des personnes particulières, de la relation musicale dans les faits, en fait, qui ne peut pas simplement être réduit à un stimulus écouté, à une réponse qu'on va mesurer par IRM ou par capteur sur la peau, etc. Et je pense qu'avec l'animal, ça sera un petit peu pareil. C'est-à-dire que dans la relation du berger à ses moutons, par exemple, qu'il conduit à la parole, enfin au chant, on va dire, ou à la flûte, ou quoi que ce soit, ne pas prendre en compte la relation préalable qui existe, par exemple, entre l'animal et l'homme, pareil pour les vaches, etc. Je pense que ce serait peut-être une erreur, enfin, de façon générale, que de mettre ça complètement de côté au profit de, justement, des choses... voilà. C'était juste ça que je voulais rajouter. Et qui est-ce que l'ethnomusicologie, encore une fois, l'anthropologie, peut aussi apporter dans ce type de débat ?
Pour poursuivre ce que tu disais, c'est assez frappant de voir que l'essentiel de la musicothérapie à l'heure actuelle, alors qu'on pourrait croire que les musicothérapeutes reprennent les trouvailles des neurosciences sur les effets de la musique comme une validation des effets de la musique à des fins thérapeutiques. Donc, il y a une littérature en neurosciences là-dessus depuis longtemps, mais qui s'intensifie vraiment depuis les années 2000. Et bien, en fait, non. Justement, il y a énormément de critiques chez les musicothérapeutes. On le voit dans les écrits des musicothérapeutes actuels autour de l'idée que les musicothérapeutes sont très critiques de l'idée que les sons pourraient guérir. En fait, vous allez sur le site de l'Institut de musicothérapie de Nantes, qui est un des deux instituts en France qui prodigue des cours de musicothérapie. Le directeur de l'institut écrit en grosses lettres sur la page qu'est-ce que c'est que la musicothérapie. La musique n'a jamais soigné personne. Et il construit toute une page pour déconstruire ça sur l'idée que la musique pourrait soigner, parce que ce qui soigne, c'est la relation. Donc ça, c'est une idée qui a fait son chemin beaucoup en musicothérapie à l'heure actuelle, depuis une vingtaine d'années en fait, et qui est que la musique est une aide relationnelle, et c'est la relation qui permet de soigner, donc effectivement, mais que la musique en elle-même, le pouvoir des sons, n'est pas un instrument de la musicothérapie. Et donc là, il y a vraiment une bifurcation déjà de la musicothérapie par rapport à elle-même, c'est-à-dire que la musicothérapie a effectivement commencé, comme le rappelait aussi Juliette Folkler tout à l'heure, en essayant de rentrer vraiment dans un paradigme médicaliste, mais beaucoup de thérapeutes s'en sont détournés à partir des années 70, et puis de bifurcation entre deux paradigmes, c'est-à-dire soit c'est la musique qui agit, soit c'est la relation qui agit, et on ne peut pas... Il y a des tentatives de qualifier cliniquement l'effet de la musique. Mais pour faire un test clinique, il faut mettre de côté la relation. C'est-à-dire qu'il faut faut que les effets soient évalués, par exemple, par des personnes qui ne sont pas au courant de la condition des patients. Toutes les études cliniques visent à essayer d'isoler l'effet de la musique de l'effet des relations autour de la musique. Alors que de l'autre côté, l'essentiel de la musicothérapie actuelle insiste sur le rôle de la relation et prend la musique comme une aide relationnelle. Après, il y a différentes théories et différentes manières de voir cela. Mais c'est plus un cadre pour développer d'autres relations à soi et au monde qu'un dispositif qui va être efficace par lui-même. Et c'est assez intéressant de voir du coup la bifurcation et les deux paradigmes.
On va prendre une dernière question parce qu'il va falloir s'arrêter.
Je me demandais si quand vous parlez des effets de la musique, là pour l'instant vous parliez beaucoup des sons, des chants, des vibrations. Est-ce qu'il y a aussi la façon dont un morceau est composé d'une autre façon d'Occident, une partition avec la coda, est-ce que dans les autres cultures, ça aussi, ça va être pris en compte ou ça peut être pris en compte ? Et si aussi la spécificité d'un instrument, d'autres instruments dans le monde qui vont prendre des quarts de ton, des choses comme ça, aussi a un effet différent selon le type d'instrument, provoquera un effet différent.
Je ne sais pas si quelqu'un sait comment. Votre question, c'est de savoir si donc si les instruments différents ont des effets différents, c'est ça, selon. Oui. La question du timbre, si le timbre d'un instrument a un effet particulier, peut avoir. Donc, alors, il y a des cultures où le timbre de l'instrument est investi d'une qualité, de qualité particulière, ça tout à fait. Donc, il y a un discours sur l'effet particulier du timbre de l'instrument. Mais il y a des discours de cette manière-là. Pendant longtemps, il y avait par exemple une théorie, les théories de la transe étaient que le volume sonore, et notamment le volume des tambours, faisait qu'il y a une excitation sonore très forte qui se produisait et que les gens rentraient en transe parce que, avec le volume sonore et donc des tambours très forts, voilà, ça excitait le cerveau. Jusqu'au moment où on a commencé à prendre en compte que dans le candomblé, par exemple, on peut très bien rentrer en transe avec le son d'une petite clochette, et que donc, du coup, qu'il y avait tout un raffut de tambours, mais qu'en fait, les gens rentraient en transe lorsqu'une petite clochette tintait, et donc, du coup, ça ne marche pas comme une théorie universelle. Après, des théories locales, de vernaculaires, de l'effet de tel instrument ou de l'effet de tel intervalle, pour poser la question des quarts de ton, l'idée que certains intervalles ou certaines successions d'intervalles produisent des effets particuliers et automatiques sur l'auditeur, il y a des théories vernaculaires là-dessus. En gros, dans tout le monde arabe, toute la théorie du maqam, qui a des fondements dans les théories pythagoriciennes, en fait, il y a des échanges comme ça entre dont je parlais précédemment, c'est-à-dire les théories qui étaient aussi en vigueur à l'époque de Platon, sur de l'harmonie et du rôle, en fait, de l'ordre mathématique de l'univers. Là-dedans, l'ordre, les intervalles musicaux sont en rapport avec un ordre mathématique de toutes choses et peuvent avoir donc une influence sur les êtres humains, y compris à leur insu. Il y a des théories écrites qui l'affirment et des théories populaires qui le disent aussi. Après, oui. C'est aussi une technique compositionnelle, mais là, les théories, moi, je pensais, enfin, je suis pas du tout spécialiste de ça. Il y a une théorie compositionnelle du maqam, mais il y a aussi l'idée que c'est simplement la telle succession d'intervalles, c'est comme appuyer sur des boutons magiques du cosmos. On prend du 5 et du 4 et du 3 et du 2 et ça fait des. Sans tenir compte de tout ce qui fait, sinon le maqam qui n'est pas simplement la question des quarts de ton, qui est en fait toute une manière de composer avec des motifs, etc. Mais je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions.
Peut-être. Il va falloir qu'on s'arrête. Juste avant qu'on arrête, je voulais vous dire que, en fait, ça, c'est matière vraiment à continuer. On pourrait peut-être refaire une séance autour de ce numéro, parce qu'il y a beaucoup d'articles dont on n'a pas parlé. Voilà, donc, merci encore. Et puis, je voulais juste dire que Catel Morand va revenir en mars, puisque elle a eu très peur, puisqu'on fait quelque chose sur la poésie orale. Non, voilà. Bon, merci beaucoup.